Excellente journée, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, il faut châtier la Russie. Déclaration choc du président ukrainien Zelensky aux dirigeants du monde. La décision de Moscou d'annexer une partie du territoire ukrainien en agitant le feu nucléaire déclenche une avalanche de protestations, vous l'entendrez. En Russie, le non à la guerre résonne dans une trentaine de villes. Manifestation populaire pour s'opposer à Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a annoncé hier matin la mobilisation de 300 000 réservistes. Certains préfèrent fuir plutôt que de prendre les armes. Dans ce journal également, Gérald Darmanin réclame l'expulsion immédiate des étrangers dont la demande d'asile est refusée. Explication du chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel. Et puis le football, France-Autriche ce soir en Ligue des Nations. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La fuite en avant pour le Parisien. Les Échos parlent d'escalade. Guerre et peur, dit Libération. Voici quelques-unes des unes de la presse ce matin. Vladimir Poutine a donc franchi un nouveau cap, celui de la mobilisation des réservistes et le recours à l'arme nucléaire si besoin. Menace déjà agitée, mais prise très au sérieux par les Américains. Une fuite en avant dénoncée par Volodymyr Zelensky dans des termes peu diplomatiques. Le président ukrainien réclame un châtiment pour les crimes commis par les Russes.
Un crime a été commis contre l'Ukraine et nous demandons une juste punition. Une punition pour la violation des frontières et de l'intégrité territoriale. Une punition qui doit être mise en place jusqu'à ce que les frontières internationalement reconnues soient restaurées et que l'agression cesse. Nous pouvons brandir le drapeau ukrainien sur l'ensemble de notre territoire, mais nous avons besoin de temps. Nous sommes prêts pour la paix. Mais une paix véritable, honnête et juste. C'est pour cela que le monde est de notre côté.
Voilà, Volodymyr Zelensky applaudi par l'Assemblée des Nations Unies, discours diffusé par vidéo hier. Les Européens, de leur côté, envisagent de nouvelles sanctions contre Moscou. La question est sur la table, dit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.
En Russie, pendant ce temps, l'annonce de la mobilisation des réservistes semble diviser profondément la population.
La guerre devient une réalité palpable pour les 300 000 réservistes susceptibles de prendre les armes. Manifestation pour dire non à l'escalade dans une trentaine de villes avec plus d'un millier d'arrestations à la clé. Et même s'il faut rester prudent, on a peut-être là aussi franchi un cap, celui d'une contestation ouverte et durable du pouvoir. Wilfried de Villers.
Dès les annonces de Vladimir Poutine, des rassemblements se sont formés dans plus d'une trentaine de villes. De Moscou à Saint-Pétersbourg, en passant par Irkoutsk, en Sibérie, des images relayées massivement sur les réseaux sociaux. Non à la mobilisation, non à la guerre, scandent des centaines de personnes dans les rues de la capitale avant d'être dispersées violemment par la police. Dans la ville de Perm, un jeune manifestant fait face aux forces de l'ordre. Je ne veux pas mourir pour Poutine et sa guerre, lance-t-il aux policiers qui l'embarquent. Il y a aussi cette image d'une femme couchée sur le sol, inconsciente, entourée des forces de sécurité. Le scénario est le même dans la plupart des grandes villes. C'est le plus important mouvement de protestation depuis le début de la guerre. Et pendant que certains manifestent, d'autres décident de quitter le pays. Depuis la prise de parole du président russe hier, les ventes de billets d'avion au départ de Moscou ont tout simplement explosé.
Et deux illustrations de cette volonté de fuir le pays. Vous venez de l'entendre, il y a la ruée sur les vols directs vers l'étranger. Turquie, Arménie ou encore la Biélorussie. Autant de destinations prises d'assaut. Le prix des billets a été multiplié par 10. D'autres ont choisi de quitter la Russie par la route direction la Finlande, pays voisin. Résultat, jusqu'à 35 km de bouchons à la frontière.
Europe 1, il est 7h04. Retour en France. Gérald Darmanin s'attaque au droit d'asile. Le ministre de l'Intérieur veut accélérer les expulsions des étrangers dont la première demande a été refusée.
Et il aimerait en faire graver le principe dans le projet de loi sur l'immigration que défendra le gouvernement en janvier prochain. Gérald Darmanin souhaite que les étrangers en situation irrégulière ne puissent pas multiplier les recours. Il défend donc un nouveau principe, Louis Dragnel, l'expulsion automatique au premier refus de l'administration.
Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, un demandeur d'asile qui se voit débouté bénéficie juridiquement de 12 possibilités de recours. Autrement dit, cela peut prendre des années avant qu'un débouté du droit d'asile soit effectivement expulsé. L'idée de Gérald Darmanin, ce serait d'expulser tous les déboutés qui ne font pas de recours, ce qui représente un peu plus d'un tiers d'entre eux. Pour vous faire une idée, en 2019, la France a reçu 133 000 demandes d'asile. 97 000 candidats ont été déboutés et ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Trois ans plus tard, entre ceux qui ont fait des recours et ceux qui sont passés dans la clandestinité, la majorité d'entre eux est toujours là. Avec le nouveau système, à partir de ces chiffres et selon les projections de la place Beauvau, 38 000 personnes qui n'ont pas fait de recours auraient pu être expulsées dès 2019. Conséquence directe de cette volonté de modifier la loi, le désengorgement des tribunaux administratifs qui croulent sous les recours d'étrangers contestant leur expulsion. C'est aujourd'hui 40% de leur activité, on monte même à 50% avec les appels. Autant dire que le droit des étrangers sature complètement la justice administrative.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Autre sujet dans l'air du temps, les économies d'énergie chez nous, dans nos foyers, dans les entreprises et bien sûr dans les administrations. Exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, tout le monde doit s'y mettre, même les lycées.
Et oui, doucement sur le chauffage et doucement sur l'éclairage. On pourrait résumer ainsi le plan sobriété du président de Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Ça commence évidemment par les bâtiments dont la région a la charge. Les lycées vont devoir faire des économies. Les proviseurs ont reçu leur feuille de route. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon.
Première mesure, limiter la température dans les classes, 19 degrés autorisés, pas plus. La consigne a été passée à tous les proviseurs. La région va ensuite s'attaquer à l'éclairage. Fini les ampoules classiques, place désormais au LED dans tous les lycées de la région, explique Laurent Wauquiez.
On va changer 1 million d'ampoules LED dans la région sur nos 560 lycées. Vous gagnez 10% sur votre consommation. Ça va être un chantier colossal, mais on sait que là on gagne des millions d'euros. Donc ça a commencé et l'objectif est qu'on ait tout fini avant le mois de Noël. Je préfère payer des ampoules que de payer du gaz russe. J'ai aucun état d'âme la matière. Et puis c'est un investissement qui va me rapporter chaque année et qui va protéger l'argent du contribuable et améliorer l'environnement.
Autre mesure toute simple, le nettoyage des locaux se fera désormais partout à l'eau froide et non plus à l'eau chaude. Un gain minime, reconnaît le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vu le contexte, il n'y a pas de petites économies. Enfin, dans les mois qui viennent, la région va financer la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de 400 lycées, ceux où cela est possible. Tous les parkings seront également recouverts de panneaux solaires afin de produire de l'électricité et de faire diminuer la facture totale. Le but, c'est d'économiser 50 millions d'euros par an. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Allez, le football, France-Autriche ce soir, on les a connus en meilleure forme, nos Bleus. Hein.
Coup d'envoi à 20h45 au Stade de France, contexte particulier à 2 mois d'une Coupe du Monde. Les forfaits sur blessures s'accumulent, 11 joueurs et non des moindres sont absents. Les affaires judiciaires et les révélations sur les mœurs de la fédération éclatent au grand jour. Cyril de la Morinerie, on en vient presque à oublier qu'il y a un match ce soir.
Oui, à part l'affaire Karim Benzema, en son temps, jamais Didier Deschamps n'avait été confronté à une telle situation. L'actualité des Bleus est polluée par les affaires, par l'épineux dossier des droits à l'image. Quant aux graves ennuis de Paul Pogba, il touche beaucoup le vestiaire. En particulier, Raphaël Varane, le défenseur ami de longue date du Turinois, lui a apporté en conférence de presse son soutien. Le climat est pesant, mais Didier Deschamps est imperturbable et reste dans sa bulle.
L'atmosphère, elle est ce qu'elle est. Voilà, moi, je me focalise sur ce qui se passe en interne. Moi, je suis coupé du monde extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois, ce que j'ai à faire avec mes joueurs. Même si là, ça a été accentué par le nombre de changements et de rechangements, je m'adapte aussi.
Car Didier Deschamps est aussi confronté à une cascade de blessures inédites. Le groupe est moins expérimenté, privé notamment de son capitaine Hugo Loris. Cela dit, la France conserve des atouts importants. Dans les buts, Mike Maignan, excellent avec le Milan AC, le milieu du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, et bien sûr, l'incontournable Kylian Mbappé. Les Bleus qui n'ont pas gagné un match en juin espère se relancer dans la Ligue des Nations afin d'éviter la relégation.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 France-Autriche ce soir à 20h45 à Saint-Denis. Rencontre à suivre en direct sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport.
Voilà, les Bleus champions du monde qui se retrouveraient en Ligue B de la Ligue des Nations, ça ferait mauvais genre. Merci Christophe. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, Nicolas Vanier est l'invité d'Europe 1.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Alors vous qui nous écoutez, c'est un aventurier, un vrai, que j'ai le plaisir de recevoir pour vous ce matin sur Europe 1. Bonjour Nicolas Vanier.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes l'aventurier du Grand Nord, hein, écrivain aussi, réalisateur. Vous publiez ces jours-ci chez XO Éditions votre dernier livre. C'est un roman, ça s'appelle « C'est le monde à l'envers !». Roman qu'on pourrait qualifier de, allez si je devais donner un genre, de pré-apocalyptique d'une certaine manière. C'est l'histoire de Stanislas, c'est un trader parisien. C'est le haut du panier de la société, mais voilà que la société ne va pas très bien. Toutes les crises qui couvaient depuis des années, sociales, climatiques, écologiques, migratoires, subitement s'emballent et vont se conjuguer les unes aux autres. Bref, c'est le grand effondrement, un peu comme dans les livres de Pablo Servigne ou de Jared Diamond. Il faut quitter Paris, c'est l'exode, et on part dans le Morvan. Alors, je m'arrête là pour ne pas déflorer davantage l'intrigue. Alors, voilà, ce livre, Nicolas Vanier, c'est quoi? C'est l'histoire d'un retour à l'âge de pierre?
C'est une première partie je crois malheureusement parfaitement crédible, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12, le réchauffement climatique. Une première partie que j'ai racontée pour pas que ça arrive, bien évidemment.
C'est avec les 30 à 40 premières pages là, que j'ai données.
Voilà, hein, avec une seconde partie, on va dire beaucoup plus joyeuse, parce que déjà ça crée pour mes personnages, dont ce trader riche à millions qui se croit du coup à l'abri de tout et qui du jour au lendemain se retrouve sans rien, parce que de l'argent aujourd'hui c'est une ligne électronique, et le jour où Internet disparaît, on n'a plus rien.
Ben voilà, il n'y a plus Internet, la bourse s'effondre, voilà, ferme,
donc,
etc.
Très rapidement, et on sait comme les réflexes humains sont ce qu'ils sont, qu'en l'espace de quelques minutes, tout le monde se rue sur les magasins, l'essence, que tout s'arrête. Voilà, donc c'est cette première partie, malheureusement encore une fois, que je raconte, qui me semble parfaitement crédible. Et toute une seconde partie, beaucoup plus joyeuse, parce que ça crée des situations très drôles, avec effectivement des valeurs qui sont le retour à ce une certaine solidarité, parce que ces personnes se rendent compte que pour pouvoir vivre, il va falloir, contrairement à ce qui se passe, on va dire, au début du roman, il va falloir s'entendre.
Ouais. Mais alors, pourquoi ce titre « Le monde à l'envers »
Déjà parce qu'il me semble bien à l'envers actuellement, avec tout ce qui se passe.
Ah oui, donc le monde à l'envers, c'est pas après l'effondrement,
non,
c'est aujourd'hui.
C'est le monde à l'envers, parce que ça peut être pris, on va dire, de deux façons, que ce soit dans la première partie ou dans la deuxième partie, sachant que, effectivement, toute cette deuxième partie, elle se base sur une réflexion aussi qui est que quel monde on va devoir construire demain, sur quelles valeurs, pour ne pas répéter bien évidemment ce qui aboutirait à cette situation dont on a commencé malheureusement à voir les prémices cet été par exemple.
Alors voilà, justement, effectivement, parce que le point de départ, la manifestation la plus frappante au début du livre, c'est une canicule terrible. Et c'est exactement ce que l'on vient de vivre. Alors, tout le monde vous pose la question en ce moment, est-ce que vous avez devancé quelque part l'actualité et l'ambiguïté du livre aussi? On a l'impression que cet effondrement, comment dire, on sent que c'est une tragédie. Mais est-ce que vous le désirez pas un petit peu, Nicolas?
Non, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je ne souhaite pas ça. Ce que je souhaite, c'est qu'on se réveille. Et effectivement, ce qui s'est passé cet été, encore une fois, qui n'est rien à côté de ce qui va se passer dans 15 ou 20 ans. Ce n'est pas moi qui parle, là. C'est des scientifiques qui sont dotés de moyens extrêmement importants aujourd'hui, qui nous font des simulations, qui d'ailleurs se sont révélées parfaitement exactes. Ce qu'ils nous ont dit il y a 5 ans, c'est produit très exactement avec toutes ces anomalies climatiques qui vont se multiplier, qui vont avoir des conséquences absolument dramatiques. Et donc, tout ça, bien évidemment, que je ne le souhaite pas. Ce que je souhaite, c'est qu'on se réveille enfin. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui parle, les scientifiques nous disent qu'on a 15 ans. 15 ans, c'est rien. J'ai réécouté dernièrement le discours de Jacques Chirac, j'y étais d'ailleurs à l'Élysée, qui demandait une gouvernance écologique mondiale et qui disait grosso modo, la Terre brûle, il faut se réveiller, nous regardons ailleurs. Et il ne s'est rien passé, pas grand-chose. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut se réveiller. Et j'ai l'impression qu'on commence un petit peu quand même à se réveiller au regard, effectivement, de ce que l'on vit, de ce que les gens ont vécu enfin, en vrai. Parce qu'on nous annonçait des choses qui paraissaient peut-être un petit peu abstraite. Et là, on se rend compte que ça devient plus que du concret.
Mais alors, quand Emmanuel Macron parlait à la fin de l'été de la fin de l'abondance, de la grande bascule avec un grand G et un grand B, comment vous comprenez ces mots-là ?
D'abord, il a parfaitement en raison. Maintenant, j'ai profondément regretté qu'il ne dise pas plus combien, effectivement, pendant toute cette période d'abondance, c'était creuser les écarts. Parce que qui a profité de l'abondance? C'est finalement 10, 15, 20% de la population. Et encore, je crois, très optimiste. Donc effectivement, il faut siffler la fin de la récréation. Mais moi, je déteste tous ces écolos, on va dire, qui nous parlent de punition, de restriction, tous ces mots anxiogènes, alors même qu'on vit une période compliquée. On voit que lorsqu'on l'on met en place, et c'est des choses que j'ai fait concrètement dans la production de mes films, avec des grandes entreprises que je pourrais citer, en créant un éco-quartier à La Défense, on voit que lorsqu'on met les solutions qui sont à notre disposition pour baisser l'empreinte écologique d'une entreprise, d'un projet, on ne va pas vers du moins bien vivre, on va souvent vers du mieux vivre. J'aime bien cet exemple qu'on pourrait multiplier à l'infini, mais aujourd'hui c'est criminel de manger des fraises en hiver, c'est fini. Et c'est un vrai plaisir que d'attendre le mois de juin pour avoir enfin des bonnes fraises françaises qui ne viennent pas de l'autre bout du monde et qui abîment la planète. Voilà, alors il y a des gens qui nous écoutent, qui ont dit oh, cet exemple, voilà, ça, c'est une goutte d'eau, mais on peut multiplier ça à l'infini. Il faut un comportement vraiment responsable aujourd'hui voilà, du consommateur.
Alors quand vous parlez, parce que vous êtes un écolo, même si vous dites les partis écologistes, vous, c'est pas votre tasse. Mais regardez un petit peu, vous dites souvent le consommateur, c'est lui le roi, c'est lui qui a les clés de la situation. Mais regardez ce qui se passe, la Fluxcam, la honte de voler, les campagnes contre l'obsolescence programmée, toutes ces marques responsables. On voit que la consommation est en train de se moraliser. Même les consommateurs, ils veulent une auréole au-dessus de la tête d'une certaine manière par leur consommation. Tout ça,
c'est formidable parce que hier, les entreprises faisaient un petit peu du greenwashing, se disaient bon, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, une grande partie d'entre elles le font parce qu'ils se rendent compte que le consommateur est en train d'évoluer de façon exponentielle et que s'ils n'agissent pas et vite, ils vont perdre des parts de marché. Et parce ça, c'est un signal formidable. Et c'est un signal de plus qu'on envoie encore une fois au consommateur qui a ce pouvoir. On va bientôt rentrer dans les périodes de Noël, de pénaliser, par exemple, parce que j'aime les exemples concrets, pénaliser tous ces produits qui sont emballés, sur-emballés, énergivores, qui détruisent la planète. Et à l'inverse, de favoriser tous ces produits qui, du coup, sont de plus en plus nombreux, qui sont respectueux de cette petite planète qui a besoin qu'on soit responsable.
Je reviens à votre livre, Le Monde à l'envers. C'est précisé sur la couverture qu'il va y avoir le film.
Oui, on est en train de préparer le tournage du film qui va commencer là, dans le Morvan, et puis à Paris, cet automne et cet été. Et effectivement, je suis très content de ça.
C'est un film en circuit court ? C'est un film local ?
C'est un film où on va essayer, j'aime pas ce mot, mais d'être le plus exemplaire possible. Ouais. Et où on va d'ailleurs...
Mais comment vous faites, par exemple, très concrètement ?
À la fin de ce film, éditer une sorte de livret, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour que toutes les productions puissent s'appuyer sur ce qu'on a mis en place. Et depuis longtemps, qu'on va essayer d'améliorer au mieux, le plus que l'on peut, de façon à ce que, effectivement, les productions de films qui sont aujourd'hui parfois très énergivores puissent s'appuyer sur notre exemple.
Voilà, le pionnier du Grand Nord, Nicolas Vanier, bientôt pionnier du cinéma responsable. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je redonne le titre de votre dernier livre, Le Monde à l'envers, .! C'est paru ces jours-ci chez XO Éditions. Merci Nicolas Vanier.
Merci à vous, bonne journée à tous.
Il est 7h20.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito éco.
Tiens, d'un Nicolas à l'autre. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Alors, paraît-il qu'on va ouvrir des mines de lithium en France. Je ne crois pas qu'il y en ait déjà eu.
Non, ce serait une bonne nouvelle en réalité, sur le plan économique, sur le plan politique et même sur le plan écologique. Alors le lithium, vous savez, c'est un excellent conducteur électrique. Il est nécessaire dans les batteries de téléphone ou dans les batteries de voitures. La demande mondiale, évidemment, est très forte avec le numérique et la transition énergétique. Il y a même en réalité une sorte de guerre du lithium. Alors, comme pour toutes les matières premières, il y a deux aspects, l'extraction et le traitement. L'extraction, aujourd'hui, elle se fait essentiellement en Amérique latine. C'est là que sont la moitié des réserves, en Argentine, en Bolivie et au Chili. Le traitement, c'est la Chine. Et la Chine qui veut devenir le premier producteur mondial de voitures électriques, qui veut maîtriser toute la chaîne de valeur. Eh bien, la Chine domine déjà le traitement du lithium. Elle raffine à peu près déjà 60% de la production mondiale extraite.
Et vous dites que la France pourrait prendre un rôle, mais alors lequel ?
Alors, si on est astucieux, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du lithium dans le sol français, alors, plus exactement dans les eaux souterraines françaises, notamment au nord de l'Alsace. Les études de prospection ont déjà commencé. Le but, c'est d'identifier les gisements et d'ouvrir un puits. Une entreprise strasbourgeoise qui s'appelle Viridian est déjà prête à raffiner. Ce lithium pourrait servir à la production de 2 millions de véhicules par an. Alors, ce qui est intéressant...
C'est quoi ? C'est plus que la production de véhicules neufs aujourd'hui.
C'est colossal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le nord de la France et l'est de la France développent aussi la production de batteries. Ce serait donc possible de développer toute une filière. Ce serait évidemment économiquement intelligent, écologiquement aussi, parce qu'on raffine mieux le lithium qu'en Chine, et politiquement, parce que ce sont des emplois qui sont localisés en dehors de métropoles, qui sont, elles, déjà prospères.
Mais alors, là, vous dites rouvrir des mines. Aïe, parce que ça, c'est un sujet qui est hyper sensible. Qu'est-ce qui pourrait interrompre le projet ?
Ben justement, deux choses, la peur et la bureaucratie. Alors la peur qui peuvent pousser des associations qui se disent écologistes à expliquer que le lithium c'est sale, que les voitures électriques ça pollue, qu'il faut rester chez soi ou vivre au milieu des métropoles qui sont très chères, Paris, Nantes, Strasbourg. Et puis la bureaucratie. Alors pour l'instant la délivrance des autorisations s'est bien passée, mais enfin quand on connaît nos capacités françaises à transformer une opportunité en cauchemar bureaucratique et un cauchemar bureaucratique en échec, on reste sur nos gardes.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou, il est 7h23.
C'était l'édito éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
7h23, l'essentiel de l'actualité sur Europe 1. Alban Le Prince.
Les Russes descendent dans les rues pour dire stop à Vladimir Poutine. Le président russe a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes hier, prêts à partir au combat en Ukraine. Conséquence, des manifestations ont eu lieu dans une trentaine de villes. Au moins 1300 personnes ont été interpellées. Sur le front de l'épidémie de Covid, la 8e vague est là. C'est ce qu'assure Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, dans l'émission Complément d'enquête qui sera diffusée ce soir. Il appelle à reprendre les gestes barrières. Et puis du foot à suivre ce soir dans Europe 1 Sport. Les Bleus reçoivent l'Autriche au Stade de France en Ligue des Nations. Coup d'envoi 20h45.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Il y a 30 ans, le 22 septembre 1992, des orages d'automne s'abattent sur le Haut-Vaucluse, provoquant une crue meurtrière sur le bassin de Louvèze. Et une commune va subir un véritable martyr, c'est Vaison-la-Romaine. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà, ce jour-là, les pertes humaines sont effroyables. 37 morts, 4 disparus.
Oui, après des pluies diluviennes pendant 3 heures, un torrent d'eau et de boue emporte tout sur son passage. Les maisons s'effondrent, englouties par les eaux.
On a eu au pont romain qui fait 15 mètres de haut, l'eau a dépassé de 2,50 mètres, a tout emporté sur son passage.
Quelqu'un qui a à peu près 65 ans, il m'a raconté qu'il était dans sa caravane a été broyée tout d'un coup, et ils ont été éjectés, ils se sont accrochés à un arbre, ils flottaient dans l'eau. Ils s'accrochaient aux arbres, ils avaient de l'eau jusqu'au cou.
À l'origine de ces inondations, il y a des orages violents. Mais rapidement, d'autres questions se posent.
Certains habitants, par exemple, s'étonnent qu'on ait laissé construire une zone artisanale complètement ravagée ce soir et plusieurs maisons dans le lit mineur d'une rivière sujette à des crues et eux ne veulent plus y revenir.
On entend ici le journaliste d'Europe 1, Roger Hardouin. Pour beaucoup d'experts à l'époque, le phénomène météorologique violent n'explique pas tout.
Et oui, effectivement, sont pointés du doigt par les spécialistes la politique de construction qui était jugée imprudente.
Oui, construction en zone inondable, urbanisation inappropriée autour de la vieille ville, réponse immédiate du maire de Vaison-la-Romaine.
Je pense que tout a été construit de toute façon en conformité avec les règlements d'urbanisme de la ville, qui ont été approuvés par tout le monde.
Mais pour vous, ce n'était pas une zone à risque?
Ah mais en bord de Louvèze, tout est à risque. Un orage normal, il n'y a pas de risque. C'est quelque chose qui n'était pas prévisible avec cette intensité. De mémoire de Vaisonnet, ça n'a jamais existé. Il faudrait remonter bien loin pour avoir quelque chose d'aussi important.
Et à l'époque, le leader de Génération Écologie, Brice Lalonde, explique sur Europe 1 que c'est difficile pour les maires d'empêcher l'urbanisation.
Beaucoup d'élus disent, vous revenez sur la décentralisation, c'est nous qui devions décider, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'élu, par exemple, mais je ne les mets pas en cause, c'est très difficile pour eux de refuser de donner un permis de construire s'il doit se faire réélire et tout. Donc maintenant, je pense qu'il faut que ce soit le ministère de l'Environnement qui empêche de construire n'importe où.
300 maisons ont été détruites lors de ces inondations et désormais, aujourd'hui, dès que le niveau de la rivière dépasse 2,20 m, un premier plan de vigilance est enclenché.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Tiens, ce sera le chiffre du jour. 10 000 morts par an chez les personnes âgées à cause de chutes. Eh ben, on peut apprendre à tomber. Reportage dans le journal de Romano Key qui arrive dans un instant.
Europe Matin,
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
Et nous sommes donc le 22 septembre. Des témoignages exceptionnels dans ce journal. Parole d'iranienne, elle manifeste après la mort de Mahsa Amini, arrêtée et tuée par la police des mœurs de Téhéran. La révolte s'étend aujourd'hui jusqu'en Turquie. Nous serons avec notre correspondant sur place. C'est le premier parc éolien offshore. Inauguration aujourd'hui au large de Saint-Nazaire par le président de la République, Emmanuel Macron. À la clé, 20% de la production électrique du département. Et puis, de la consommation électrique du département, pardon. Et puis, une affaire qui secoue le basket français. Thomas Hurtel, le meneur de l'équipe de France, s'est engagé dans un club russe, contrat qui menace son avenir en bleu. Le journal Roman, ok, bonjour Roman.
Bonjour à tous. Avant de parler du courage des femmes iraniennes, voilà un sujet qui concerne toutes les familles et pour cause, c'est la première cause de décès accidentel chez les seniors. La chute responsable de 100 000 hospitalisations et 10 000 décès par an. Une fracture du col du fémur, une perte d'autonomie et parfois des complications. Les astuces, adapter l'éclairage de son logement, retirer les tapis et surtout tomber sans se blesser.
Et oui, ça s'apprend à tomber grâce au judo, notamment art martial que l'on peut traduire par la voie de la souplesse en japonais.
Oui, et vous allez comprendre, c'est d'ailleurs la méthode employée dans cette résidence pour seniors du Val-de-Marne. Sur le tatami, il y a donc des résidents en kimono et Céline Géraud avec son micro Europe 1.
Allez, on y va.
Pour ceux qui ont besoin, on n'oublie pas de prendre sa canne.
12 mètres carrés de tatami posés sur le lino de la salle commune et à chaque séance, le même rituel.
La main avec laquelle j'écris ou je dessine, elle vient se mettre sur le revers du genou. Et l'autre main, elle vient se mettre sur la manche.
Pendant une heure, ces apprentis judokas oublieraient presque qu'ils sont équipés de prothèses et de bas de contention, comme une parenthèse enchantée pour Emma, 84 ans.
Ça fait bien, ça, le acte de douleur, ça diminue. On se sent un peu mieux.
Tapez sur le tapis avec vos mains. Très bien, je vous aide à vous relever.
Ah, ah bah oui, heureusement.
Et au fur et à mesure, les éclats de rire se mêlent aux grimaces, surtout quand il faut réapprendre à chuter. John, 72 ans.
Ici, il y a beaucoup de chutes. C'est une des raisons pour laquelle on est hospitalisé, c'est les chutes. Ça permet de voir si on progresse ou ça permet de voir où on en est.
Des progrès que constate aussi le professeur Xavier Guichard.
Il y a des vrais progrès sur le plan physique et tout, mais aussi au point de vue, je pense, sur la conscience de leur capacité. Et ça, je pense que c'est le plus important. Merci tout le monde, à la semaine prochaine.
Et puis c'est déjà la fin du cours. Chacun repart, kimono sous le bras, un peu moins fourbu et un peu plus heureux.
Le reportage de Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1 et ancienne championne de judo qui a remis le kimono et participé à la démonstration.
Le beau judoka européen d'un bleu magnifique. Il est 7h33, des témoignages exceptionnels à présent sur Europe 1. La parole de femmes iraniennes qui manifestent contre le régime.
Une mobilisation qui a déjà fait 8 morts à Téhéran et dans une quinzaine de villes du pays. Des émeutes liées à la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée à l'hôpital après son arrestation par la police iranienne. Le motif, un voile mal ajusté sur ses cheveux. Une révolte qui se propage désormais dans la diaspora. Le reportage de Rémi Trio à Istanbul, en Turquie, où des Iraniennes se sont rassemblées devant le consulat.
Mon corps, mon choix. Le slogan féministe est repris par une centaine d'Iraniennes. Presque aucune ne porte le voile. Elles brandissent des photos de Mahsa Amini et certaines se coupent des mèches de cheveux pour dénoncer l'oppression des femmes en Iran.
Je ne pouvais pas rester en Iran. Ils ne me laissaient rien faire juste parce que je suis une femme. Pourquoi ont-ils tué une fille de 22 ans seulement à cause du port du voile ?
Anissa, cheveux courts teints en rose, raconte la terreur que fait régner la police des mœurs dans son pays.
Nous avons peur de la police. Ils nous disent toujours qu'on doit porter correctement notre voile. On n'a pas le choix. Ils sont brutaux. Ce sont des tueurs.
Et vous n'avez pas peur de participer aux manifestations en Iran ?
Cette fois, je préfère mourir. Je suis prête pour ça. Peut-être que si je verse mon sang, je serai à l'origine d'un changement. Je n'ai pas peur.
L'ayatollah Khamenei est un assassin, scandent les protestataires qui espèrent la chute du régime des Mollahs. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1.
7h34 sur Europe 1. Ici, la solution pour les rendre plus acceptables, c'était de les installer en mer, les éoliennes. Le premier parc éolien offshore va être inauguré aujourd'hui au large de Saint-Nazaire en présence d'Emmanuel Macron. Installation XXL pour produire 20% de l'électricité habituellement consommée dans le département.
Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, l'objectif du chef de l'État, c'est de défendre le renouvelable, surtout en pleine crise de l'énergie.
Oui, Emmanuel Macron veut montrer que ça marche, que l'éolien en mer est possible. Le parc de Saint-Nazaire est le premier en France. Le chef de l'État tient à saluer sa mise en service. Pour l'image, il montra à bord d'un bateau tout à l'heure pour se rendre au pied des éoliennes situées au large du Croisic. Surtout, il devrait dévoiler lors d'un discours à la mi-journée le contenu du projet de loi portant sur l'accélération des énergies renouvelables. Il faut aller plus vite, concède un conseiller du président qui constate qu'il a fallu 10 ans pour que ce parc sorte de mer quand nos voisins européens mettent en moyenne moins de temps pour ce genre de projet. De nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs sur le renouvelable alors que les prix de l'énergie s'envolent et que la stratégie d'Emmanuel Macron sur le nucléaire ces dernières années est contestée. Mais au-delà de la réponse aux critiques franco-françaises, la manœuvre du chef de l'État tout juste de retour de New York au lendemain du discours de Vladimir Poutine est aussi un message adressé à la Russie. La France travaille à son indépendance énergétique.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Mettre au maximum la pression sur la Russie, ça c'est l'autre message porté par Emmanuel Macron hier à la communauté internationale devant les Nations Unies. L'Union européenne, elle, planche en ce moment sur de nouvelles sanctions visant Moscou.
Oui, une réaction à cette allocution. Vladimir Poutine n'excluait pas le recours à l'arme nucléaire pour protéger son pays. Une menace prise très au sérieux par le président américain Joe Biden qui, à la tribune des Nations Unies, est revenu sur une autre annonce du Kremlin, la mobilisation de 300 000 réservistes.
Maintenant, la Russie appelle davantage de soldats à rejoindre le combat et le Kremlin organise un simulacre de référendum pour tenter d'annexer certaines parties de l'Ukraine. Cette guerre a pour but d'anéantir le droit de l'Ukraine d'exister en tant qu'État et le droit de l'Ukraine d'exister en tant que peuple. Où que vous viviez, quelles que soient vos convictions, cela devrait vous glacer le sang.
La déclaration de Joe Biden aux Nations Unies hier.
La guerre en Ukraine qui secoue même la Fédération française de basket. L'un des meneurs de l'équipe de France, Thomas Hurtel, vient de signer un contrat avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg.
Et c'est là que ça coince. Le basket français ne sélectionne pas les internationaux qui jouent en Russie. Plus de matchs en bleu, donc pour Thomas Hurtel. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour Romane, bonjour à tous.
Dimitri, cette décision a de quoi surprendre, surtout quand on se rappelle que c'est en partie grâce à ce joueur finalement que les Bleus sont arrivés jusqu'en finale de l'Euro.
Oui, mais c'est une décision qu'il a prise en toute connaissance de cause, car dès le mois d'août, la Fédération française de basket a averti tout joueur français évoluant en Russie n'est plus sélectionnable tant que le conflit n'est pas terminé. Une situation qui interroge d'autant plus qu'avant le début du championnat d'Europe, les joueurs, dont Thomas Hurtel, ont signé une attestation sur l'honneur, assurant qu'ils ne rejoindraient pas une formation russe. Pourtant, sachant que son transfert a été officialisé hier, il n'y a peu de doute sur le fait que les tractations entre le joueur et le Zénith Saint-Pétersbourg aient eu lieu avant ou pendant l'Euro de basket. Alors pour le moment, la fédération n'a pas encore réagi, mais son avenir chez les Bleus semble plus que compromis quand on sait que son nouveau contrat l'amène jusqu'en 2023 où les Bleus seront en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de 2024.
Merci Dimitri Vernet.
Alors elles ont déjà décroché le bronze aux Jeux Olympiques.
Oui, on parle cette fois des basketteuses françaises qui démarrent donc aujourd'hui.
Basketteuses
leur... Oui, les basketteuses, les femmes françaises qui démarrent donc aujourd'hui leur Coupe du Monde. Rendez-vous à 12h30 pour le match d'ouverture face à l'Australie, le pays qui accueille la compétition. Premier adversaire d'une poule corsée avec le Japon, la Serbie et le Canada, voilà, sans parler du nombre de joueuses blessées très important. On verra ce que ça donne.
Merci beaucoup Romano, qui est effectivement décidément épidémie de blessures dans les sélections nationales en
Exactement,
ce moment.
Oui.
Merci à vous Romano. Dans un instant, l'édito international de Vincent Hervouet. On va reparler de Joe Biden que l'on vient d'entendre à l'instant et puis la prescription culture de nos deux experts du jour, Nicolas Carreau pour la littérature, Marie Gicquel pour les sorties.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Ça y est, vous le tenez, vous l'avez reconnu ?
Nick Cave, évidemment.
Nick Cave and the Bad Seeds, bravo à tous les deux. Red Right Hand, c'est le générique de Peaky Blinders. Pourquoi ? Bah parce que Nick Cave, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Oh. Ah,
65 ans. Voilà,
J'espère qu'on a invité à sa fête.
Moi j'ai pas reçu le carton personnellement. Dans un instant, les perles de culture Europe. Alors Marie Gicquel, on commence avec vous. Une idée de sortie du théâtre ce matin?
Tout à fait, une idée géniale, c'est le nom de cette pièce. C'est une comédie.
Voilà, c'est la pièce anti-déprime de la rentrée, paraît-il. Et puis le livre du jour, Nicolas Carreau.
Un roman magnifique, un roman de guerre qui se transforme en roman d'amour.
Waouh, on a hâte. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri.
Le compte à rebours aux États-Unis. On est à 7 semaines des élections de mi-mandat, les fameuses midterms. Alors les sondages prédisaient à Joe Biden une véritable déroute, mais à la surprise générale, voilà que le président a comme ressuscité.
Oui, alors à le voir trébucher dans l'escalier, tomber de vélo à l'arrêt, égaré pour ne pas dire hagard en descendant de tribune, on se dit depuis 2 ans que les Américains ont élu un zombie, que le bureau ovale sert de décor à un emploi fictif. Joe Biden est un président à éclipse lacunaire. Mais le vétéran a les qualités de ses défauts. D'abord, il connaît tous les trucs pour faire illusion, faire sourire à l'assistance ou la faire pleurer. Et il sait aussi mener une campagne et la gagner.
Alors ce sera difficile, hein. Ceci dit, les élections de mi-mandat, c'est toujours un vote de défiance contre le pouvoir en place.
Au mid-term, l'état de grâce termine. C'est la fessée assurée. 2 ans après son sacre triomphal, Barack Obama perd 63 sièges à la Chambre des représentants. En 2018, Donald Trump en perd 41. Il faut que la guerre menace, comme après la crise des Cubas ou après le 11 septembre, pour que le pouvoir échappe au désaveu. Cette année, pour avoir la majorité et paralyser Biden, les Républicains ont besoin de remporter 4 sièges à la Chambre des représentants. Et le nouveau découpage électoral leur en assure déjà 3. Au Sénat, ils sont pile à 50-50 avec les démocrates, tout est possible. L'Américain moyen a de bonnes raisons de saquer Joe Biden. Le programme mirifique de 2020 s'est évanoui, les prix ont flambé, plus 8 8% et demi, 8,5 je crois.
Ouais, c'est ça,
8,5,
et ouais.
Le repli d'Afghanistan a tourné en débâcle. Au printemps, donc, les carottes étaient cuites.
Et puis voilà que Joe Biden a trouvé la parade.
Oui, les lois qu'il a réussi à faire voter pour la transition énergétique, pour annuler la dette des étudiants, pour limiter le coût des médicaments, ont restauré son image de réformiste. Les cours du pétrole ont baissé, les Américains voient midi à la pompe. Et surtout, le vrai tour de passe-passe, c'est de transformer le référendum anti-Biden en référendum anti-Trump.
Alors effectivement, il prétend mener le combat pour l'âme de l'Amérique.
Il accuse les Trumpistes de demi-fascisme. Il prétend la démocratie en danger. Il s'oppose en rempart avec le Donald en repoussoir. C'est comme ça qu'il s'est fait élire. Par défaut, c'est une stratégie à la française. Elle a convaincu le Washington Post et le New York Times, toujours prêts à hurler au retour de la bête immonde à la mèche peroxydée. Elle mobilise aussi l'électorat féminin. En renvoyant à chaque État la responsabilité de légaliser l'avortement ou non, la Cour suprême a électrisé les progressistes, les féministes, les libéraux qui votent démocrates et braqué aussi une partie des républicains modérés.
Mais alors Vincent, traiter les électeurs de Trump de demi-fascistes, ça renforce les divisions de l'Amérique.
Joe Biden déplore ces divisions, c'est une posture morale, mais il compte bien dessus pour se faire réélire. Il cible Donald Trump et mise tout sur ce duel. Et on comprend son cynisme. Si le Congrès bascule, il sera un canard boiteux, il sera empaillé vivant. Non seulement paralysé, mais aussi harcelé. Une commission d'enquête se penchera sur Hunter Biden, le fils à problème qui a fait du business en Ukraine et en Chine quand son papa était vice-président. On saura peut-être enfin pourquoi Joe Biden traite l'Ukraine comme le 51e État de l'Union. D'autres commissions sont prévues sur la crise migratoire à la frontière mexicaine, la débâcle afghane, pour savoir si Donald Trump fait ou non l'objet de persécutions judiciaires. L'ensemble aurait de quoi empêcher Sleepy Joe de dormir pendant 2 ans.
Merci beaucoup Vincent Hervouet, c'était votre signature, 7h46.
Europe Matin.
Allez, la culture, Nicolas Carreau, ce matin, vous nous parlez d'un roman qui se taille une petite place à part hein, au soleil dans la rentrée littéraire.
Exactement, beaucoup de coups de cœur de libraires, ça c'est très important. Publié par un petit mais génial éditeur, Les Forges de Vulcain, le roman est signé Gilles Marchand, son titre « Le soldat désaccordé ».
Un soldat, soldat, ça se passe donc pendant la guerre.
Oui. La Grande, en 14. C'est un ancien combattant qui raconte qu'il n'est pas parti la fleur au fusil, mais enfin il était d'accord pour faire son devoir et expliquer gentiment mais fermement aux Allemands que ça ne se fait pas trop d'envahir des pays neutres. Pas un va-t-en-guerre, mais pas non plus un pacifiste. Quand faut y aller, pour résumer. Le problème, c'est qu'il perd une main au combat dès l'automne 14. Beaucoup moins pratique pour tenir un fusil. Alors, il est relégué à l'arrière pour l'approvisionnement. Il fait ce qu'il peut pour aider.
Et on va le suivre comme ça pendant toute la Première Guerre mondiale.
On passe assez vite sur la guerre pour arriver dans les années 20. Il est de retour à la vie civile. Il n'a pas pu reprendre son travail de conducteur de tram. Alors, il trouve un peu par hasard un boulot d'enquêteur. Vous savez, après la guerre, il y a eu beaucoup d'enquêtes comme ça lancées pour retrouver un soldat, en réhabiliter d'autres fusillés pour l'exemple. Et ça, ça lui plaît. En plus, ça marche bien. Il a fait la guerre, les soldats se confient plus volontiers. Puis il a payé cher avec sa main en moins, ça lui attire de la sympathie. Et un jour, en 1925, il rencontre Jeanne Joplin pour un travail. Il s'agit de retrouver son fils, Émile, disparu depuis 1916. La dernière lettre reçue a été envoyée de Verdun.
Ah, et donc c'est là où il est mort, à Verdun ?
Bah franchement, c'est exactement ce que se dit notre héros.
Bah oui.
Mais la mère du soldat Émile n'en démord pas, il n'est pas mort, point, elle le sent, c'est ça les mamans. Mais bon, vous pensez bien que ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de discours, mais pour elle, il est vivant, elle n'a pas reçu pourtant d'autres lettres ou des témoignages d'anciens camarades, son argument est imparable, il était trop jeune pour mourir.
Ah oui.
Certes. Bon, de toute façon, il accepte le travail, il a besoin de payer son loyer, ce sera dur de lui annoncer à la fin de l'enquête que son fils y est resté, mais bon. Il active son réseau, il pose des questions à droite à gauche, il y va, il arpente et il tombe non pas sur une histoire de guerre et de violence, mais sur une histoire d'amour et de poésie. C'est écrit avec une fausse légèreté, c'est en fait très précis, documenté sans qu'on sente la poussière des archives.
Voilà. Et alors, est-ce qu'il est mort ou pas ?
Ah bah, faudra lire pour savoir.
Donc c'est important, merci. Donc ça s'appelle « Le soldat désaccordé », signé Gilles Marchand. Aux Forges de Vulcain, encore un super livre. Allez, ma pile de... J'ai gagné, elle a encore grimpé de quelques centimètres.
Mais il est court celui-ci en plus,
c'est vrai.
200 pages.
Ah oui, c'est vrai, ça se tient en un week-end,
ah
ça,
oui.
Si on s'y met.
3 heures.
Allez, Marie Jiquel, vous nous prouvez, enfin pour vous, vous qui lisez 100 pages de l'heure, lit Nicolas
Caro. Je suis bien concentré.
Marie Jiquel, alors vous nous proposez une pièce de théâtre, ça s'appelle Une idée géniale, c'est du boulevard, et comme toute pièce de boulevard, bah, il y a un mari jaloux.
Oui, et vous vous demandez, Dimitri, qu'est-ce que cette idée géniale? Eh bien, c'est un mari persuadé que sa femme Marion est tombée amoureuse d'un agent immobilier. Il va trouver le sosie de cet agent immobilier et l'inviter à dîner. Le but, que ce sosie joue les gros goujats et bien sûr dégoûte sa femme du vrai agent immobilier.
Marion arrive, elle vous dit bonjour et vous lui répondez en étant assez distant et hautain. Hein. Oui. Alors je joue le rôle de Marion.
Vous voulez la robe de Marie Poppins?
Non merci. Alors, comme ça vous avez pris mon mari en stop.
Va faire à bouffer, j'ai les crocs.
Voilà, sauf ça va, évidemment ça va se corser lorsque bah, le vrai agent immobilier, le frère jumeau du sosie, s'invite à dîner. C'est trois fois
comme,
le même homme en fait.
Et bah voilà, vous comptez très bien Dimitri. On est donc à trois personnages qui se ressemblent, joués par le même comédien Sébastien Castro. Vous imaginez donc la chorégraphie d'entrée et de sortie sur scène dans une ambiance évidemment de porte qui claque.
Il faut que ce soit au millimètre sur scène et en coulisses. C'est-à-dire qu'il y a la mise en scène de ce qui se passe pour les spectateurs, puis il y a la mise en scène de ce qu'il y a derrière pour que tout fonctionne et que l'illusion fonctionne.
Vous êtes un peu schizophrène là ce soir.
Oui, bien sûr, il faut.
Avec ces trois personnages, comment vous faites?
Au début des répétitions, je me perdais. C'est-à-dire que je jouais Jules et en plein milieu de la scène, je me disais, mais non, moi, je suis en train de faire l'agent immobilier. Et c'est à force que j'ai réussi à distinguer parfaitement les trois.
C'est la première fois que je vais au théâtre et que je sens les spectateurs excités, impatients, avant même le début de la pièce. Et pour cause, hein, ça virevolte, les répliques fusent. Les quatre comédiens sont tous très justes pour le plus grand bonheur des spectateurs ravis à la sortie du Théâtre Michel à Paris, comme Agathe et Emma qui ont la vingtaine. Et on va les entendre. Et les spectateurs attendent même de rencontrer Sébastien Castro, qui n'est pas seulement le comédien, il est aussi l'auteur de cette comédie.
C'était super drôle, c'était trop bien.
C'est celle où j'ai vraiment le plus rigolé parmi toutes les pièces de théâtre que j'ai faites. Enfin, on se pose beaucoup de questions de combien est-ce qu'ils sont sur scène, c'est hyper mouvementé.
À bientôt.
Dis donc.
Oui, Marie.
Les spectateurs vous attendent à la sortie pour vous féliciter.
Pour nous féliciter et aussi pour nous poser plein de questions.
Les relous.
Non, pas du tout. La question, c'est comment vous faites pour être trois sur scène? Et on n'a pas le droit de répondre, on a signé une clause.
Alors comment vous faites pour être trois sur scène?
Je ne dirai rien. Mais je ne vous dirai rien si ce n'est que ce sportif.
Est-ce que vous êtes le vrai Sébastien?
Là, tout de suite, oui.
J'espère voilà. Qu'il a une doublure.
Ouais. Non, il est tout seul, c'est génial, il faut absolument y aller.
En tout cas, bien tenté d'avoir posé la question, j'aurais fait comme vous. Et alors, je précise
les journalistes, voilà. Les journalistes.
Donc c'est une idée géniale, c'est jusqu'au 31 décembre au Théâtre Michel à Paris. Mais la pièce a beaucoup voyagé déjà, elle était au printemps dernier, je crois, du côté de Toulouse. Et elle va évidemment continuer à circuler.
On ne vous apprend rien.
Ah bah oui, non mais il n'y a pas que Paris dans la vie, Marie Jiquel,
évidemment.
Surtout sur Europe 1.
Évidemment.
Évidemment. Merci à vous Marie, merci Nicolas.
Merci.
À demain, 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Ukraine et Russie ont procédé cette nuit au plus important échange de prisonniers de guerre depuis le début du conflit. 215 ont été récupérés côté ukrainien, notamment des militaires ayant défendu la Syrie Azovstal à Mariupol, symbole de la résistance. Dans la soirée, une trentaine de manifestations se sont déroulées en Russie pour protester contre la mobilisation de 300 000 réservistes annoncée dans la matinée par Vladimir Poutine. Au moins 1300 personnes ont été arrêtées. La majorité des avions à destination de l'étranger affichent également complet. Direction Saint-Nazaire pour Emmanuel Macron, tout juste rentré des Nations Unies. Le président va inaugurer dans la matinée le tout premier parc éolien en mer. Objectif, en créer une cinquantaine d'autres pour développer le renouvelable.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Depuis hier, Elisabeth Borne reçoit à la chaîne les responsables parlementaires. Le sujet, c'est la réforme des retraites. Matignon, sur ordre d'Emmanuel Macron, cherche en effet le petit trou de souris pour tenter d'adopter cette réforme par amendement au budget de la sécurité sociale. Alors, c'est plutôt mal parti, disons-le Alexis. Pourquoi le président, selon vous, s'est-il embarqué dans cette galère?
Alors, sur le papier, si on considère la situation dramatique des finances du pays, Emmanuel Macron ne manque pas d'arguments. Hein. Que dit-il? Qu'il faut impérativement réformer les retraites et que le plus tôt sera le mieux. Il a raison. Il ajoute que ce n'est pas en palabrant 4 mois de plus qu'on transformera les réticences en adhésion. Et ça, c'est frappé au coin du bon sens. Et au contraire, que plus on attendra et que plus la situation économique, sociale, politique risque de se tendre et la réforme de se compliquer. Et donc, le risque est grand, si on ne fait pas les choses aujourd'hui, qu'on ne les fasse jamais. Tout cela se tient absolument. le problème. Le problème, car évidemment il y a un problème, c'est que cet habile échafaudage n'est pas du tout cohérent, il est même en totale contradiction avec, vous savez, cette fameuse nouvelle méthode Macron dont on nous tympanise depuis le début du quinquennat. Alors le président dit « dialogue, concertation, horizontalité ». Parfait. Il invente pour mettre en scène ce magnifique idéal participatif, un machin improbable qu'il baptise « Conseil national de la refondation ». Formidable. Et paf, voilà qu'il fait tout le contraire en imaginant de faire passer sa réforme à la hussarde. Alors évidemment, il y a dans ce « en même temps » quelque chose qui ne colle pas.
Et quel est le résultat de tout cela, Alexis ?
Ben, le résultat, c'est que personne n'est content. Ceux qui étaient contre la réforme des retraites, ben, le sont plus que jamais. La NUPES, le RN, le PS, la CGT, etc. Ils sont tous sur le sentier de la guerre. Ceux qui étaient plutôt pour la réforme sont désormais contre la méthode. Pas maintenant, pas comme ça. C'est le cas de la CFDT qui parle tout de même de déloyauté. C'est surtout le cas des centristes et de François Bayrou, l'allié par excellence, qui a quand même un peu de mal à digérer qu'on lui ait demandé de prendre la présidence du CNR pour empiétiner aussitôt tous les principes. Et même ceux qui étaient franchement pour, cela commence à flancher. La droite, prenez la droite. Bah, depuis des mois, elle réclame une réforme à corps et à cri. Mais là, elle commence à se dire que tout ça va mal tourner, qu'il ne s'agirait pas d'être entraîné dans un désastre politique avec Macron. Et le MEDEF n'est pas tellement plus enthousiaste et il s'inquiète surtout de subir des mois de conflits sociaux. Bref, à l'arrivée, ben, il ne reste pas grand monde pour défendre la réforme à la sauce Macron. Édouard Philippe, droit dans ses bottes. Bruno Le Maire, qui doit donner des gages de bonne gestion à Bruxelles. Une partie des élus macronistes, et encore pas tous, loin de là. Et Elisabeth Borne, bon, elle dit rien, mais enfin, on comprend que l'idée de se retrouver obligé d'utiliser le 49-3 ne la fait pas sauter de joie.
Mais vous pensez qu'elle risque d'être mise en minorité par une motion de censure, Alexis ?
Bah, on ne peut jamais rien absolument exclure, mais enfin, c'est tout de même assez peu probable que le RN et la NUPES mêlent leur voix. Bon, ça, c'est possible. Mais imaginez que la droite et les centristes se joignent à la fête, ce serait quand même énorme.
Non. Ça, c'est vrai.
Le vrai danger, il est du côté de l'opinion, du côté des protestations qui ne vont pas manquer de naître dans la rue. Car, et il faut bien se le dire, hein, les Français sont majoritairement, et même très majoritairement, hostiles à la réforme des retraites. On peut s'en désoler, mais c'est ainsi. Ils n'ont pas envie du tout de travailler plus longtemps. Un sondage Odoxa Blackbone, publié hier par Le Figaro, le montre absolument. 77% des sondés sont contre l'idée macronienne de passer par voie d'amendement. 77%. 67% soutiendraient un grand mouvement de contestation contre la réforme. Okay. Ça fait réfléchir. Hein. Oui. Donc on comprend absolument, et c'est tout à son honneur, que Macron, piqué au vif, veuille à toute force faire mentir la prophétie du second mandat inutile, vous savez, du quinquennat pour rien. Mais il me semble que ce n'est pas en jouant ainsi avec le feu qu'il pourra échapper au spectre de la chiracisation.
Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, Poutine choisit la surenchère. Jeudi 22 septembre, il est 8h. Voilà, Poutine dans les tranchées, la colère des Russes hier soir, manifestation dans une quarantaine de villes contre la mobilisation de 300 000 réservistes pour aller faire la guerre en Ukraine. Les Russes sous le choc, peuvent-ils faire vaciller Vladimir Poutine ? Analyse de notre spécialiste Nicolas Tonef. Dans ce journal, pas question pour Emmanuel Macron de brasser du vent. Aujourd'hui, le chef de l'État est à Saint-Nazaire pour mener la bataille de l'éolien offshore avec un message face à la crise énergétique. Il faut accélérer. Aux États-Unis, Donald Trump et trois de ses enfants dans la tourmente, accusés de fraude fiscale. La procureure de New York leur réclame 250 millions de dollars. Et puis à 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, Didier Lemaire, c'est ce professeur de philosophie qui avait, vous vous en souvenez, alerté sur la montée de l'islamisme dans sa ville de Trappes. Depuis, il ne peut plus enseigner, il a été accusé de mensonge et il revient avec un nouveau livre et nous réserve sa première interview. À tout à l'heure.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Serait-ce le réveil russe ? Après 7 mois d'une guerre qui lui semblait lointaine, la population semble prendre conscience de la réalité. Hier, les nouvelles menaces nucléaires de Vladimir Poutine contre l'Occident, mais aussi et surtout la mobilisation de 300 000 réservistes russes, ont entraîné un grand exode. Des milliers de jeunes tentent de fuir le pays vers la Turquie ou toute autre destination sans visa. Dans plusieurs villes, des manifestations improvisées contre la guerre ont entraîné l'arrestation détention de plus de 1000 personnes. Bonjour Nicolas Toneff.
Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes le spécialiste européen de la Russie, en direct avec nous. Il se passe quelque chose pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine dans la société russe. Est-ce que ça peut devenir un problème pour Vladimir Poutine ?
Alors c'est possible, parce que ce qui est notable pour le pays, c'est que les manifestations, aussi petites soient-elles pour l'instant, ne se cantonnent pas à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Vous le disiez, il y a plusieurs dizaines de villes qui sont concernées, dont des villes de Sibérie. La réaction des autorités montre aussi qu'elles ne sont pas sereines. Plus de 1300 arrestations, vous le disiez également. Il s'agit de tuer dans l'œuf l'idée de protester et de faire disparaître des images qui brouillent par la réalité l'illusion imposée par la propagande. Et maîtriser ce genre de mouvement est très important pour le Kremlin, parce que la mobilisation partielle va rimer avec recrutement dans la Russie de l'Ouest. Ce ne sont donc plus seulement les régions situées au-delà de l'Oural qui vont enterrer des morts. Et dorénavant, donc, chaque famille va être concernée par cette guerre, être amené à se poser des questions par la réalité, au-delà de la propagande.
Et Nicolas, 300 000 réservistes mobilisés, envoyés en Ukraine, c'est beaucoup. Est-ce que ça peut renverser le cours actuel de la guerre ?
Alors en tout cas, la bonne nouvelle pour les militaires russes, c'est que le diagnostic militaire est le bon. Je vous propose d'écouter le témoignage de ce soldat ukrainien sur le front du Donbass.
Il est où ? Il est char, BMP. Mais il ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de personnel, en fait, il n'y a pas de soldats. Il y a beaucoup d'armement, beaucoup de mines, beaucoup raquettes et tout ça, mais il ne peut pas.
Voilà, voilà, en résumé, ce que dit ce soldat, c'est que les Russes ont plein de matériel, mais personne pour s'en servir. Alors avec 300 000 hommes de plus, si le Kremlin résout les problèmes logistiques, l'équipement, le transport, la nourriture, la donne peut changer. D'après un membre des renseignements ukrainiens que j'avais rencontré à Kiev, le chiffre référence pour pouvoir opérer efficacement sur un front aussi étendu, c'est à peu près 500 000 soldats disponibles. Alors en théorie, la Russie donc y arriverait, avec l'annonce de la mobilisation partielle. En théorie, car il faut retirer les pertes de 7 mois de guerre, et puis réussir donc à mettre la main sur les réservistes.
Merci Nicolas Toneff, spécialiste européen des pays de l'ex-URSS.
Et à New York, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a été ovationné pendant une longue minute après son intervention devant la 77e Assemblée Générale des Nations Unies.
Mais le président ukrainien a réclamé un châtiment juste pour Moscou et la mise en place d'un tribunal spécial afin de juger les crimes de guerre du Kremlin. Notez par ailleurs qu'un important échange de prisonniers a eu lieu hier entre les autorités russes et ukrainiennes. Kiev assure avoir récupéré 215 de ses ressortissants, contre 55 pour Moscou, parmi lesquels un ex-député proche de Vladimir Poutine accusé de haute trahison.
Voilà, 8h05 sur Europe 1. Il veut booster les énergies renouvelables. De retour de New York, Emmanuel Macron est attendu à Saint-Nazaire aujourd'hui, dans le premier parc éolien offshore de France.
80 unités géantes qui doivent produire 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique. Un ouvrage colossal qui a totalement changé le paysage, notamment à Batz-sur-Mer. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
Ce qu'on aime, c'est l'immensité de l'océan, l'horizon avec la courbe de la Terre.
Le panorama. Voilà pourquoi Christian a succombé au charme de Batz-sur-Mer il y a plusieurs années. Et à l'époque de chez lui, la vue était bien dégagée.
Et là, on se retrouve avec quand même des poteaux.
Par temps clair, on ne voit désormais que cela. Une forêt de pylônes coiffée d'éoliennes. Le premier parc offshore français est certes à 12 km du rivage, mais les structures mesurant près de 200 mètres de haut, contrairement à ce qui avait été annoncé au début du projet, elles ne se fondent pas vraiment dans le paysage.
On les prend vraiment plein les yeux, quoi.
Bruno Schmitt est adjoint à l'urbanisme et à l'environnement.
La fameuse image où on tient une allumette et où on nous disait que l'impact visuel ne sera pas plus grand que ce qu'on voit au bout de son doigt, c'est pas ce qu'on nous avait annoncé. On aura toujours maintenant cette rangée d'éoliennes qui seront là.
Un préjudice qui mériterait donc, selon la mairie, une indemnité supérieure aux 277 000 euros annuels prévus par la chambre de compensation. Malgré cela, dans la commune la plus impactée du littoral, on sait aussi faire la part des choses. L'esthétique, c'est bien. Les énergies propres, c'est l'avenir.
Évidemment, c'est moche, mais bon, c'est un mal pour un bien.
Batz-sur-Mer, Charles Guyard, Europe 1.
Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Ce parc au large de Saint-Nazaire, c'est le premier, mais pas le dernier. En février dernier, Emmanuel Macron avait annoncé un objectif 50 parcs éoliens offshore d'ici 2050. Où en est la France aujourd'hui, Baptiste ?
Elle avance, mais elle avance doucement. Aujourd'hui, 4 parcs d'éoliennes en mer sont en chantier, 71 éoliennes au large de Fécamp, 64 dans la mer du Calvados, 62 au large de Saint-Brieuc et donc les 80 au large de Saint-Nazaire. C'est le premier parc de la sorte à voir le jour en France. 2 éoliennes sur 4 y sont déjà opérationnelles. La mise en service complète est prévue d'ici la fin de cette année. Le parc pourra alors fournir en électricité 5000 foyers par an. Par ailleurs, 8 parcs d'éoliennes en mer sont toujours à l'état de projet.
Mais alors pourquoi cela avance si lentement, Baptiste ?
Eh bien, prenez le projet des 46 éoliennes à Dunkerque. Une plainte a été déposée par la Belgique qui les considère trop proches de ses côtes. Autre exemple, le projet de 62 éoliennes à Dieppe. Trois recours ont déjà été déposés en justice par les associations. Ce sont ces procédures qui ralentissent les projets, comme l'explique Jacques Percebois, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie.
Ce qui retarde les projets, notamment d'éolien, c'est les actions en justice, parce qu'il faut répondre. Donc, ce que souhaite le gouvernement, c'est un petit peu limiter les délais pour rester en justice. Donc, ça peut aller un peu plus vite.
Aller un peu plus vite pour rattraper une partie du retard, car aujourd'hui, l'éolien ne produit que 8% de notre électricité. Avec l'éolien en mer deux fois plus productif que sur Terre, la France veut se rapprocher des modèles britanniques, danois ou allemands. Là-bas, plus de 20% de l'électricité est produite par le vent.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
L'actualité aux États-Unis, énième épisode des déboires judiciaires de Donald Trump.
Hier, la procureure de New York a lancé des poursuites au civil contre l'ancien président américain et son entreprise familiale, dont sont membres trois de ses enfants. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ce sont les pratiques financières de la famille Trump qui sont visées.
Oui, l'enquête dure depuis 3 ans maintenant, des millions de documents analysés, 65 témoins entendus et une conclusion, selon Laetitia James, la procureure de New York, que Donald Trump a menti sur la valeur de ses avoirs.
Cette enquête montre que Donald Trump s'est engagé dans des années de pratiques illégales pour gonfler la valeur de ses biens afin de tromper les banques. Cette fraude organisée utilisée par M. Trump et son organisation pour leurs propres bénéfices financiers est stupéfiante. C'est un stratagème qui, par sa nature même, est devenu plus rentable au fil du temps.
Des biens parfois surévalués pour obtenir des prêts avantageux ou à l'inverse, de temps en temps, sous-évalués afin de payer moins d'impôts. La loi est la même pour tous, affirme la procureure. Elle réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts, ainsi que l'interdiction pour Donald Trump et ses enfants de diriger une entreprise à New York ou d'y obtenir des prêts. L'ancien président a lui dénoncé une nouvelle chasse aux sorcières menée par une procureure raciste et ratée. En tout cas, le dossier a été transmis à l'administration fiscale fédérale qui devra décider de lancer ou non d'éventuelles poursuites au pénal.
Alexis Guilleux.
Allez, le football, rendez-vous ce soir 20h45, France-Autriche. Ce sera en direct et en intégralité sur Europe 1, évidemment.
Oui, évidemment, match de Ligue des Nations que les Bleus abordent difficilement. Hein. Beaucoup de joueurs phares sont blessés, mais c'est aussi l'occasion de tester de nouveaux venus et d'essayer de trouver un équilibre à 2 mois de la Coupe du Monde. Allez les Bleus.
Voilà, Coupe du Monde au Qatar, évidemment, qui sera à suivre dans
sur Europe 1.
Merci Fanny Marceau. 8h09, dans un instant, Didier Lemaire, le professeur de philo de Trappes. Elle est au micro de Sonia Mabrouk. À tout de suite.
Europe 1.
Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est professeur de philosophie. Il s'était fait connaître il y a 2 ans en dénonçant l'emprise des islamistes sur ses élèves de la ville de Trappes.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Didier Lemaire.
Bonjour.
Et ce matin, c'est l'écrivain Didier Lemaire que l'on écoute sur Europe 1. Il y a 2 ans, à ce micro, c'était le professeur de philosophie, enseignant dans un lycée à Trappes que nous recevions. Depuis, vous avez dû suspendre votre carrière, on le rappelle. Vous avez été menacé pour avoir alerté sur la montée de l'islamisme à l'école et notamment à Trappes. S'en est suivi un vif débat politique. Vous étiez sous protection, Didier Lemaire. Certains ont mis en cause, on s'en souvient aussi, votre parole, doutant des menaces vous visant. Comment est votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à retrouver une forme de sérénité?
Oui, j'ai abandonné ma carrière de professeur de philosophie et j'ai une autre activité professionnelle que je tiens à garder pour moi, pour des raisons de sécurité. J'ai retrouvé une certaine quiétude, en effet, dans ma vie. Mais le contact avec les élèves me manque et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, cet essai de philosophie sur la nation.
On va en parler largement de ce livre, de cet essai. Est-ce que vous estimez être toujours une cible aujourd'hui ?
Je pense que tous les enseignants qui font leur métier et qui font respecter les règles de laïcité, les règles républicaines, sont aujourd'hui des cibles potentielles, malheureusement. On le voit dans l'actualité aujourd'hui.
On va en parler de cette actualité. Est-ce que Didier Lemaire, aujourd'hui, avec un peu plus de recul et cette forme de tranquillité que vous décrivez, est-ce que vous regrettez certaines choses? Est-ce que certaines phrases ou est-ce que vous referiez exactement la même chose en disant de nouveau les mêmes choses, notamment qu'à Trappes, nous ne sommes plus en France? C'était votre phrase, votre parole choc.
Oui, cette phrase, je la maintiens absolument. Et d'ailleurs, j'ai été finalement contraint de quitter la ville pour des raisons de sécurité, de troubles à l'ordre public. Mais je ne suis pas le seul enseignant de Trappes à avoir dû quitter la ville. Avant mon départ, une collègue d'un collège voisin à Trappes a été exfiltrée par la police au mois de janvier. J'ai également mon collègue de philosophie qui a dû partir du lycée suite à une menace d'élève qui lui a dit en classe « sur Allah, je vais le fracasser ». Donc une menace quand même très très sérieuse. Donc oui, il y a un problème à Trappes, mais il n'y a pas qu'un problème à Trappes. Il y a un problème aujourd'hui dans toute la France, y compris à Paris, dans différentes villes. Oui, les enseignants aujourd'hui sont très exposés.
Vous parlez de la capitale, Paris. Il y a quelques jours, une enseignante a demandé à une élève, lors d'une sortie scolaire, d'ôter son voile. Cette élève a appelé son frère, qui a directement menacé la professeure. Est-ce que la hiérarchie soutient l'enseignant aujourd'hui ? Est-ce que le pas de vague est vraiment derrière nous ?
Le pas de vague n'est pas derrière nous, mais aussi un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est cet argument de l'islamophobie qui fait des ravages, c'est-à-dire ce soupçon d'être raciste, ce soupçon même sur les lois de la République qui sont considérés comme des formes d'oppression de minorités. Et finalement, ce discours peut motiver des passages à l'acte. C'est bien ça le problème.
Vous parlez, vous dénoncez ce procès en islamophobie, Didier Lemaire, et en même temps, on se souvient des accusations. Vous aviez été accusé d'être une marionnette de l'extrême droite, de mentir, de falsifier vos propos, d'exagérer vos menaces. Aujourd'hui, avec les reculs, qu'est-ce que vous répondez à tous ces détracteurs qui sont toujours présents d'ailleurs, hein ? Ce matin, quand on vous annonce sur Europe 1, il y a sur les réseaux sociaux ces détracteurs toujours qui affirment que ce que vous disiez à l'époque et aujourd'hui encore est faux, est exagéré.
Écoutez, je viens d'écrire un livre de philosophie pour m'expliquer sur mon positionnement politique. Et je pense pas qu'on ne pourra m'attaquer sur mes valeurs et sur ma manière de concevoir la société, mon idée de la liberté, de l'individu. Et donc ce livre est aussi une réponse à tous ces gens qui m'accusent injustement.
Alors ce livre, il est intitulé « Petite philosophie de la nation » chez Robert Laffont. Tout d'abord, pourquoi écrire sur la nation ?
Parce que la nation aujourd'hui est fracturée, elle est divisée par des clivages identitaires, par des clivages sociaux aussi, qui sont extrêmement forts. Elle n'a jamais été, je pense, aussi mal en point qu'aujourd'hui. J'ai commencé à réfléchir il y a plus d'un an à cette notion qui finalement est peu traitée en philosophie. J'ai essayé donc de me questionner sur l'origine de la nation et sur ce qui la constitue.
Et vous dites, Didier Lemaire, dans votre livre, qu'on a oublié ce que signifie vraiment la nation. Et vous pointez notamment la responsabilité de la gauche qui a abandonné, selon vous, cette notion.
Oui, ça remonte aux années 80. Je pense que la perte finalement de sens du combat de la gauche pour l'égalité et le remplacement de cette égalité par des revendications finalement communautaire, identitaire, a amené une grande confusion et à un oubli de ce qu'est la nation.
Quand vous écrivez sur la nation et la culture, Didier Lemaire, voici ce que vous dites. Je vous cite « Aucune nation ne peut survivre là où les mœurs sont diverses au point de s'opposer ». Mais quel risque vous pointez là ?
Il me semble que la culture est une des conditions de la nation, mais cette culture, ce n'est pas n'importe quelle culture, c'est une culture de la civilité, c'est une culture humaniste, c'est une culture qui prône la valeur de l'individu. Et c'est notre culture commune à nous aujourd'hui en France, mais également en Europe. Et cette culture-là est attaquée par certains modes de vie, certaines revendications.
Lesquelles précisément ?
Les revendications identitaires, communautaires, islamistes, c'est le port du voile notamment, mais pas seulement, la manière de manger, la manière de s'adresser à autrui. Et c'est cela qui est vraiment problématique.
Quand on parle de la nation, on parle aussi du danger qui la menace, qui la mine, le nationalisme. Et pour vous, Didier Lemaire, le nationalisme de demain serait postcolonial, antiraciste, multiculturaliste, adepte des réunions en non-mixité raciale. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Alors, le nationalisme remplit, je pense, un vide. Quand on ne sait plus ce qu'est la nation, on confond la nation et l'identité nationale. La nation, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour chaque individu d'être reconnu comme tel, comme un individu, et pas en fonction de son appartenance à un groupe. Or, le nationalisme, c'est l'idée que ce qui définit le commun, c'est le groupe, ce n'est pas l'individu. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à différentes formes de nationalisme, un nationalisme classique, identitaire, qui est celui de l'extrême droite, mais nous avons aussi un nationalisme ou d'autres formes de nationalisme, le nationalisme d'extrême gauche, on peut le qualifier ainsi, un nationalisme des identités multiples. Au fond, le rapport entre les hommes n'est plus un rapport entre des individus, mais entre des êtres qui sont réduits à leur appartenance à un groupe, à un genre, à une communauté, à une religion, etc.
Alors, vous parlez justement de genre. L'une des priorités du nouveau ministre de l'Éducation, c'est de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école et, dit-il plus largement, de lutter contre les inégalités. Est-ce que vous pensez que ce sont vraiment les priorités aujourd'hui de l'école, vous qui avez plutôt pointé le danger de l'islamisme ?
Écoutez, l'école, comme d'ailleurs la plupart des services publics aujourd'hui, est très mal en point. On peut dire que l'ensemble de nos services publics se sont en 30 ans effondrés. Je crois que l'école ne joue plus du tout son rôle qui est premier, c'est le rôle d'instruire et de former d'ailleurs, grâce à l'instruction, à l'exercice du libre jugement, à la citoyenneté. Elle ne rend plus cette mission. Alors si on lui donne maintenant des missions idéologiques qui vont être le relais de croyances, je crois qu'elle est en train de vraiment se dévoyer dans sa fonction première.
Comment on fait, Didier Lemaire, vous qui avez cette expérience, vous avez enseigné pendant 20 ans, pour aider aujourd'hui tous ces enseignants, ces professeurs? Il y a quelques semaines, je recevais ici même l'auteur, professeur, d'un livre qui s'intitule « Ces petits renoncements qui tuent ». Ce professeur a préféré garder l'anonymat à notre micro. Et il décrit aussi, comme vous, la gangrène de l'islamisme, la remise en cause de certains cours, les menaces, etc. C'était vraiment un professeur qui était atteint parce qu'il aime son métier, il aime toujours son métier, mais il ne peut plus le faire comme il l'a toujours souhaité. Qu'est-ce que vous dites à ces enseignants qui, eux, continuent aujourd'hui d'aller en cours ?
Écoutez, moi, ça fait un an que je prépare une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réunir tous ces enseignants qui ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, puisque finalement l'État les abandonne. Mais la réponse sera, pense, essentiellement politique, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une volonté politique de réparer la nation, de refonder les services publics, aussi bien l'hôpital, la justice, la police, l'éducation nationale, les services sociaux.
Mais pourquoi dites-vous que l'État les abandonne, Didier Lemaire ? Est-ce que les professeurs aujourd'hui qui font remonter toutes ces menaces, qui font remonter tous ces accommodements qu'on va appeler déraisonnables plutôt que raisonnables, ils ne sont pas écoutés ? Vraiment, rien n'a changé depuis le terrible choc Samuel Paty que nous avons subi ?
Mais non, je connais autour de moi des enseignants qui ont dû quitter leur poste parce qu'ils étaient menacés. Encore une fois, mon collègue de Trappes a dû quitter son Son poste, il est maintenant dans un autre poste, mais il n'est pas soutenu par l'administration. Malheureusement, on met toujours la poussière sous le tapis. On demande finalement aux enseignants d'éviter que les conflits avec certains de leurs élèves ne s'embrasent. Et c'est cela le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité finalement de l'État et que les enseignants sont en effet abandonnés.
Vous n'enseignez plus, mais est-ce que vous êtes toujours un hussard de la République ?
Je crois que ce livre est pour moi un acte, parce que je m'adresse pas seulement à des élèves, quels qu'ils soient, mais à tous nos concitoyens. Je m'adresse à tous les Français. C'est donc un livre aussi de professeur de philosophie.
Vous avez des nouvelles, Didier Lemaire, de vos anciens élèves, de vos anciens collègues également ?
Oui, j'en ai, oui. Oui.
Que vous disent-ils ? Est-ce qu'ils vous regrettent ? Est-ce que vos anciens élèves vous regrettent ? Est-ce que vos collègues, y compris peut-être parmi ceux qui ne vous ont pas soutenu au moment où vous faisiez ces dénonciations, est-ce qu'ils le regrettent aujourd'hui ?
Non, je n'ai pas eu malheureusement, je n'ai pas eu ce retour de la part de mes collègues. J'ai appris que l'une de mes élèves avait finalement décidé cette année de s'inscrire à l'université en philosophie. Je m'en réjouis. Elle m'a fait cette confidence au mois de juin dernier. C'est d'ailleurs une élève dont la famille est musulmane et qui a souffert dans le lycée des pressions de ses camarades pour l'obliger à porter le voile.
Est-ce que vous retournerez un jour à l'école, je veux dire dans votre école à Trappes ?
Écoutez, la dernière fois que je suis allé à Trappes, il y avait plus d'une dizaine de policiers autour de moi et je n'ai même pas été autorisé à faire une photographie devant mon lycée. Donc je pense que ce sera difficile dans les années qui viennent.
La question qui est terrible est celle de savoir, après tout ce que vous venez de dire, c'est ce qu'il peut y avoir encore d'autres Samuel Paty, d'autres chocs comme celui-ci aujourd'hui en France ?
Écoutez, oui, malheureusement, je pense que la pression sur les enseignants se banalise. Et encore une fois, toutes ces personnes qui relaient le discours de l'islamophobie, finalement, contribuent à mettre sur tout enseignant qui défendra les principes républicains une cible dans le dos, son dos.
Et vous le restez encore, Didier Lemaire, auteur de Petite philosophie de la nation chez Robert Laffont. Il y a ce pronostic lucide dans votre livre. Il y a aussi des solutions à lire dans ce nouvel ouvrage. Je vous remercie, Didier Lemaire, et pour être transparent avec nos auditeurs, je vous remercie parce que nous avons réalisé cette interview à distance. Vous êtes sans doute à quelques mètres, mais bloqué dans les bouchons comme oui. Cela peut arriver dans notre capitale à Paris. Donc je vous remercie de cet entretien et je vous dis à bientôt dans les studios d'Europe 1. Merci Didier Lemaire et bonne journée.
Merci à vous.
Merci Didier Lemaire, merci Sonia également. Dans un instant, programme sur Europe 1, hydrogène, obésité, power blues.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Europe 1, 8h31, l'essentiel de l'actualité, Christophe Lamarre.
L'Europe prépare de nouvelles sanctions contre la Russie. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en a évoqué le principe lors d'une réunion informelle avec les ministres des Affaires étrangères des 27 en marge du sommet des Nations Unies. Sur le terrain, l'inquiétude vient de la centrale nucléaire de Zaporijjia, à nouveau bombardée. Frappe d'origine russe, selon les autorités ukrainiennes. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique met en garde les belligérants. La situation de la centrale s'est encore dégradée. De New York à Saint-Nazaire, à peine rentré des États-Unis, Emmanuel Macron est attendu dans la journée sur les côtes bretonnes pour inaugurer le premier parc éolien en mer, mise en service prévue par EDF à la fin de l'année. La 8e vague Covid est là. Le directeur général de la Santé le confirme dans l'émission Complément d'enquête ce soir sur France 2. Jérôme Salomon recommande de respecter à nouveau les gestes barrières. La Banque centrale américaine poursuit sa politique de hausse des taux dans l'espoir de freiner l'inflation. Nouveau tour de vis de 0,75 points et retour à la réalité pour les marchés qui redoutent une récession d'ampleur, ce qu'assume le patron de la Fed, Jérôme Powell. Il n'existe pas de moyen indolore de laisser l'inflation derrière nous. Le football, France-Autriche, ce soir à 20h45, match comptant pour la Ligue des Nations, à suivre sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport. Et puis Aminata Diallo vient d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire. Décision aussitôt contestée par le parquet de Versailles qui a fait appel. L'ancienne joueuse du PSG reste mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. La justice la soupçonne d'être la commanditaire de l'agression de son ex-coéquipière Kera Amraoui. Et puis le parjure risque de coûter cher. chère au basketteur Thomas Hurtel, tout juste médaillé d'argent à l'Euro avec l'équipe de France. La Fédération française lui renouvelle son avertissement. Il ne pourra plus jouer avec les Bleus et sera privé des Jeux de 2024 s'il enfile le maillot de Saint-Pétersbourg. Le Français vient en effet de signer avec le club russe, ce qui est contraire au règlement interne à la Fédération et signé par tous les joueurs. Enfin, l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de basket. La France affronte le pays hôte, l'Australie. Match à 12h30, heure française bien sûr.
Merci Christophe Lamarre. Le temps.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Anissa Haddadi, ben voilà, l'été finit en beauté. C'est le dernier jour pour lui et oui. Il finit sur le soleil.
Oui, l'été tire sa révérence avec un beau soleil. C'est la plus belle journée de la semaine qui nous attend aujourd'hui avec du soleil sur quasiment tout le pays. On a quelques nuages passagers ce matin au bord de la Méditerranée, des entrées maritimes sur le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur. Cet après-midi, les nuages seront un petit peu plus présents au bord de la Méditerranée, ce qui annonce un vrai changement de temps à partir de demain. Et avec, je vous en parle depuis le début de semaine, un épisode méditerranéen très pluvieux pour les jours qui arrivent. La fraîcheur très marquée ce matin, hein, moins 1 à 18 degrés, moins 1 à Charleville-Mézières, 18 à Nice. Et cet après-midi, on va gagner 1 à 2 degrés grâce à ce beau soleil avec 18 à 28 degrés.
Merci beaucoup Anissa, 8h33.
7h, 9h,
Europe Matin.
Les signatures Europe 1, comme tous les jeudis, c'est Géraldine Vosner qui est avec nous. Bonjour Géraldine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Emmanuel Ducrot aussi dans un instant du journal L'Opinion. On va parler obésité avec vous Emmanuel. Mais d'abord Géraldine, quand Bruxelles fait du greenwashing de façon totalement débridée.
Oui, je veux vous parler d'un vote aberrant qui a eu lieu la semaine dernière au Parlement européen. Je dis aberrant parce qu'il va à l'encontre de tout ce que nos politiques proclament depuis des années sur le réchauffement climatique. Il faut réduire nos émissions, décarboner l'industrie. Pour ça, il compte beaucoup sur l'éolien, le solaire, oui, mais aussi sur l'hydrogène, qui est un gaz très pratique parce qu'il permet de stocker l'électricité produite par les renouvelables. On peut le transporter, s'en servir pour propulser des avions, des cargos. Bref, l'hydrogène, c'est souvent présenté comme la solution miracle. Et que viennent de décider nos eurodéputés qui sont en train de réviser une directive sur les énergies renouvelables, justement ? Eh bien que cet hydrogène, on pourra l'appeler vert, même s'il est produit avec du gaz et du charbon.
Ah,
il suffira d'acheter de l'électricité renouvelable en termes de greenwashing. Hein, c'est du XXL, du grand art. Et pourtant, vous avez entendu Greenpeace, le WWF, vous ? Ben non, personne n'a branché.
En même temps, ce n'est pas un sujet simple, l'hydrogène, quand on y regarde de près, Géraldine. Alors, il peut remplacer le gaz ou le pétrole dans l'industrie. C'est donc tout à fait quand même normal de vouloir le développer.
Oui, mais pas n'importe comment, Dimitri. Et ça révèle l'impasse dans laquelle on s'est engouffré. Il y a deux méthodes, en gros, pour fabriquer de l'hydrogène. La classique, c'est de prendre une molécule de gaz naturel, du méthane, de la casser en deux, et on se retrouve avec du carbone d'un côté et de l'autre, quatre atomes d'hydrogène. Vous voyez le problème, hein, c'est le carbone. Pour produire 1 kg d'hydrogène aujourd'hui, on relâche 10 kg de CO2.
Ah oui.
D'où l'engouement pour l'autre méthode qui consiste à casser une molécule d'eau, H2O. Là, on se retrouve avec de l'oxygène comme rejet. Le problème, c'est que ça se fait par électrolyse. On balance des électrons pour casser la molécule. Et si ces électrons, on les fabrique avec du gaz ou du charbon, l'hydrogène n'a aucun intérêt.
Oui, c'est l'électricité qui permet de produire l'hydrogène selon qu'on la produit avec... Voilà, effectivement, on a compris. Donc l'idée, évidemment, pour que ce soit de l'hydrogène vert, il faut que ce soit produit, que cette électricité vienne des énergies renouvelables.
Voilà, en utilisant les surplus de solaire et d'éolien. C'est tout le projet de l'Allemagne notamment, qui est sortie du nucléaire, s'est rendue dépendante au gaz et qui cherche un vecteur pour décarboner ses usines. L'hydrogène, pour elle, est devenu vital. Le problème, c'est que l'électrolyse demande des quantités d'électricité colossales. Pour vous donner une idée, si on voulait faire rouler rien que les poids lourds en France à l'hydrogène, ça prendrait l'électricité pour le produire de 9 réacteurs nucléaires.
Ah
c'est
oui.
Énorme. Le faire avec du vent seulement, qui souffle la moitié du temps, c'est pas rentable. C'est donc un député allemand qui a déposé cet amendement de greenwashing. Ils veulent pouvoir s'appuyer aussi sur le charbon, quitte à polluer encore plus. Et ils veulent importer, quitte à piquer le renouvelable des pays en voie de développement qui en auraient besoin pour eux. Ces derniers mois, l'Allemagne a signé des accords avec la Namibie, l'Afrique du Sud, le Maroc, pour qu'ils lui livrent par cargo de l'hydrogène produit dans leurs fermes solaires. Bilan, l'Europe va décarboner peut-être, mais les émissions dans le reste du monde vont-elles augmenter ?
Une vraie politique anticlimatique en somme. Est-ce que ce vote européen est définitif, Géraldine ?
Alors, non. La directive maintenant va être discutée avec la Commission et les États membres, mais c'est mal emmanché parce que la France n'ose rien dire tant que son hydrogène à elle qu'elle fabrique avec le nucléaire n'est pas considéré comme durable et c'est pas encore fait. Mais ce qu'il faut retenir, Dimitri, c'est que pour décarboner nos usages, en fait, il n'y a pas de solution miracle qu'importer par cargo du gaz produit avec le soleil de pays pauvres, pollués. Non, c'est pas vert, c'est une politique de gribouille. Et le problème, c'est qu'on commence un peu en ce moment à y être habitué.
Édifiant. Merci beaucoup, Géraldine Vosner. Ah bah tiens, l'édification se continue avec vous Emmanuel Ducrot. Gros sujet aujourd'hui, vous vous intéressez à une étude qui est parue hier dans une revue scientifique britannique, le BMJ Global Health. Bon, je la lis pas souvent,
bravo.
Mais vous la lisez, tant mieux pour nous, puisque des chercheurs ont calculé combien l'obésité coûte à la société aujourd'hui et combien ça coûtera dans le futur. Alors l'obésité, on le sait, c'est une maladie de l'abondance, du métabolisme et elle va se développer, hein.
Oui, je vais commencer par quelques chiffres. Actuellement, 2 adultes sur 3 sont en surpoids ou obèses dans le monde. C'est 3 fois plus qu'en 1975. Et en 2060, selon cette étude, donc, ce sera 3 adultes sur 4. La faim dans le monde, en comparaison, touche 900 millions de personnes. Mais le surpoids et l'obésité tuent plus de personnes sur la planète que l'insuffisance pondérale.
Mais comment ça se fait ? Pourquoi cette épidémie d'obésité ?
C'est une pandémie et c'est une maladie paradoxe. Elle ne touche évidemment pas les plus pauvres des plus pauvres, elle touche peu aussi les plus aisés et les plus éduqués. En fait, c'est une maladie du développement. À mesure que les pays s'enrichissent, les régimes alimentaires changent avec davantage de produits transformés et pas forcément l'éducation diététique qui va avec. Et puis, la sédentarité arrive avec l'économie des services, le développement des infrastructures de transport, l'urbanisation sont aussi des facteurs. En résumé, les conditions de vie s'améliorent, mais la santé est affectée par de nouvelles maladies, dont l'obésité.
Voilà, flemme égale obésité, donc ça coûte cher.
Et oui, ça coûte cher. Et c'est une des découvertes de cette étude. Ça coûte déjà des centaines de milliards de dollars à la planète et ça ne va pas s'arranger. En 2060, ça coûtera par exemple 700 milliards de dollars à l'économie américaine, 100 milliards à l'économie allemande, 50 milliards à l'économie française.
C'est le budget de la défense, quoi.
C'est à peu près le budget de la défense. À titre de comparaison, le budget de la santé, c'est 16 milliards.
Waouh, et ça coûtera encore plus cher, dites-vous, aux pays en voie de développement.
Et oui, parce qu'ils vont voir la part de leur population en surpoids augmenter à mesure qu'ils s'enrichissent. Et ça va leur coûter beaucoup plus cher en proportion de leur économie qu'aux pays développés. Pour l'Inde, par exemple, ce sera sans doute 850 milliards de dollars en 2060. Alors pourquoi ? On se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que les coûts directs comme les soins médicaux qui découlent des maladies du métabolisme. Il y a aussi tous les coûts cachés. La perte de productivité dans une phase de développement, les morts prématurées. L'étude explique que l'obésité pourrait être carrément un frein à la sortie de la misère de zones entières de la planète.
Oui, à un moment où on craint, et c'est là qu'en fait on tombe en absurdie, on craint de manquer de nourriture sur la planète, c'est quand même incroyable.
Et oui, ça nous dit à quel point les thématiques alimentaires sont complexes. On s'est longtemps focalisé sur le manque de nourriture, on doit encore le faire. Pas seulement sur la famine aiguë, mais sur toutes les carences, la malnutrition qui affecte le développement des enfants et qui pénalise la suite du développement des futurs pays. Il nous faut désormais comprendre que le trop est également un danger, le trop ou le mal, une autre forme de danger pour le développement.
Mais on doit se méfier aussi de nos réflexes, mais en quoi ?
Eh bien oui, parce qu'on ne peut plus opposer le monde selon la traditionnelle ligne nord-sud. Ceux qui manquent et ceux qui se roulent dans l'opulence. La vieille théorie selon laquelle il suffit de prendre aux uns pour donner aux autres, c'est fini. Ça ne marche pas. Les assiettes de la planète ne sont pas des vases communicants. On ne peut pas non plus en tirer la conclusion que la pauvreté est plus saine en matière d'alimentation et que la décroissance nous sauvera de l'obésité. Évidemment, il y a beaucoup d'autres inconvénients. L'alimentation, vous le voyez, c'est 2 problèmes en un, le trop, le pas assez. Et ça, c'est toujours un peu difficile à comprendre pour les esprits manichéens.
Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Demain, 2 autres drôles de dames à l'heure des croissants sur Europe 1. Catherine Ney, qui sera donc à la place de Géraldine, Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdomadaire Des Idées. Bon week-end à toutes les deux. À suivre le club de la presse Europe 1, Charlotte Dornelas, David Revaud-Allonne. On va parler de ce power blues dont serait saisi le président de la République, le blues du pouvoir.
Europe Matin, 7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
8h44, alors c'est un reproche assez fréquemment adressé aux médias, mais vous donnez que les mauvaises nouvelles, enfin vous en abusez, vous en faites vos choux gras. Et les bonnes initiatives, alors là, le journaliste il lève le nez et il désigne l'Élysée du doigt. Mais regardez la feuille de route gouvernementale, enfin la fin de vie, les retraites, la fin de l'abondance, j'oubliais l'assurance chômage, c'est pas la joie. Alors le chroniqueur des Échos, Édouard Tétrault, parlait hier, très justement je trouve, d'une spirale dépressive du président de la République qui déroulerait comme ça une espèce d'agenda de pompe funèbre. En plein power blues, le président de la République, comme Europe 1 vous le révélait d'ailleurs la semaine dernière, le blues du second mandat pour Emmanuel Macron. Et oui, qu'est-ce que c'est le pouvoir sans l'aiguillon de devoir se faire réélire la fois suivante? Question qui peut sembler dérisoire à la vue des chantiers dont le pays aurait besoin. Bonjour David Revaud-Allonne.
Bonjour Dimitri.
Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. Merci d'être avec nous. Charlotte Dornel, associée journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte.
Bonjour Dimitri.
Politique de pompe funèbre, j'aime beaucoup la formule. Il y a des précédents, hein. Tony Blair par exemple, c'est l'un de ses conseillers qui avait parlé en 2001, après sa réélection triomphale, de power blues. C'est Emmanuel Macron de 2022. Effectivement, à la lecture de l'agenda qu'il propose aux Français, vous pensez que c'est l'expression d'une sorte de déprime ? Post-second mandat, post-élection?
De déprime, je n'irai pas jusque-là. Je ne suis pas forcément qualifiée. Et puis, je ne connais pas suffisamment
non,
Emmanuel
politiquement,
Macron.
Non, mais j'ai bien pas, compris. Voilà.
Non, mais il y a quand même un peu de ça aussi. Parce que moi, je dirais plus qu'on a l'impression d'un président qui a décroché du niveau national, en fait, des préoccupations. Il est très investi, mais depuis déjà janvier, hein, depuis la campagne, on a tous commenté en disant qu'il ne faisait pas campagne. Il en faisait une autre. On a l'impression vraiment qu'il en faisait une autre. Il s'est passionné sur le terrain diplomatique. Il avait déjà eu, au moment du Covid, un rôle qui dépassait vraiment le niveau national, puisque tout se passait, évidemment, dans une pandémie, à l'international. La rhétorique de la guerre est devenue la sienne. Il est sur le terrain diplomatique. Et là, ça apparaît comme en effet un blues, dans la mesure où hier, dans son discours, on comprend que lui-même n'a plus la main sur la stratégie qu'il avait mise en place et qui était vraiment une stratégie française par rapport au reste du monde dans cette guerre.
Vous pensez, Charlotte, qu'il est, que le national l'ennuie et que l'international l'attire davantage, ou que l'international l'empêche, que l'agenda international de la guerre effectivement accapare son temps de président de la République?
Je note qu'il a été capable de s'en éloigner quand il a eu besoin, notamment à la fin de l'année, au moment des législatives. Donc il pourrait très bien aussi remettre dans sa manière de s'adresser aux Français le dossier international à sa place, avec d'autres nécessités. Et on l'a connu, en effet, il y a 5 ans, le monde n'était pas beaucoup plus rassurant. Alors en effet, il n'y avait pas la guerre en Ukraine qui est juste à côté de chez nous. Mais il était capable de s'éloigner de ça. Moi, j'ai l'impression d'un président que ça ennuie, oui.
Ah, d'accord.
C'est une impression, hein. c'est la mienne. Mais...
David Revaud-Allonne.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la thèse de la fuite sur le terrain diplomatico-militaire, qui en réalité est un classique pour certains présidents, parce qu'on sait très bien que...
C'est le domaine réservé du président.
D'abord, c'est son domaine réservé. Et puis sur ce terrain-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de manifestants, il n'y a pas de successeurs qui se tirent la bourre pour prétendre à vous succéder précisément. Donc, c'est un terrain qui, en général, est plus facile quand vous ordonnez aux diplomates ou aux militaires de suivre telle ou telle directive, ils le font et en général, ça suit. Donc forcément, on l'a vu il y a une vingtaine d'années avec Jacques Chirac, on l'a même vu, toute proportion gardée, avec François Hollande, qui avait quand même beaucoup de difficultés sur le terrain national et qui est le président, il faut le dire, qui a lancé le plus d'opérations extérieures de tous les présidents de la Ve République. Donc il existe ce tropisme. Il ne faut pas accuser non plus le président Macron de se réfugier dans la diplomatie. Son discours à l'ONU, qui à mon sens était très bon, est aussi un discours, même si effectivement il change un peu de ton par rapport aux derniers mois.
Mais on l'a vu d'une énergie comme on en a
oui,
pas vu depuis
alors,
quelques temps.
C'est
quand
un
même,
discours qui est aussi lié aux circonstances. On ne peut pas l'accuser de se réfugier dans les postures diplomatiques, parce que ça ne marche pas en France. Après, deuxième aspect, c'est effectivement cette expression post-présidentium, si j'ose dire, qui est effectivement un classique, vous l'avez dit, du deuxième mandat, pas de perspective de reconquête. On sait que finalement, la seule perspective, c'est de laisser sa trace dans l'histoire. Et là, précisément, il est obsédé par une chose, on le sait, c'est de ne pas laisser la trace de celui qui a fait gagner Marine Le Pen ou le candidat du Rassemblement National. Donc ça, c'est une véritable obsession. Et puis, je pense qu'il est obsédé aussi par le fait de ne pas subir un deuxième mandat façon Jacques Chirac, c'est-à-dire un petit peu, effectivement, politiquement dépressif. Avec Jacques Chirac a été encensé au moment de son décès, il était extrêmement populaire, mais je rappelle que quand il quitte le pouvoir, on a Nicolas Sarkozy, son successeur, le qualifiait de roi fainéant lui-même, puisque son bilan en termes de politique publique, des résultats étaient assez faibles.
Mais alors,
donc,
justement,
il y a quand même une débauche, je termine là-dessus, une débauche de lancement de réformes, vous l'avez dit, peu engageante, puisque vous en avez fait la liste, c'est effectivement une ambiance un petit peu d'enterrement, mais oui. Voilà, la vraie question, c'est sera-t-il en mesure de les conduire ?
Oui, et quand en contrepoint, si on dresse la liste des chantiers à ouvrir pour le pays, alors sans hiérarchie, hein, mais le pouvoir d'achat, l'emploi, la réindustrialisation, le logement, l'éducation, la sécurité, la défense, l'indépendance énergétique, l'immigration, voilà, il y a une pléthore de sujets quand même dont on pourrait se saisir et faire de grandes politiques nationales. Or, le président de la République, alors notamment aujourd'hui, concentre l'attention sur le sujet des retraites. Et on sait aujourd'hui, pour en avoir parlé abondamment sur Europe 1, le piège politique que cela représente, le risque d'empêchement définitif qu'il y a pour lui à vouloir à tout prix passer par voie d'amendement sur cette réforme-là. En dépit des mises en garde des syndicats qui disent si vous touchez aux retraites, c'est simple, on ne collabore plus, on ne fait plus rien avec vous et tout le monde est dans la rue.
Oui, mais peut-être que justement son côté disruptif, puisqu'il ne parlait que de ça pendant, son entourage en tout cas, pendant le premier quinquennat, peut-être se trouve-t-il justement dans ce courage qu'il va puiser d'aller faire la réforme la plus difficile à ce moment-là. Voilà.
Au-delà de la nécessité ou non de faire cette réforme, ce n'est pas le sujet.
Au-delà même d'être d'accord ou pas avec cette réforme, il est clair qu'elle est dans l'ADN de Macron depuis le début, que c'est une réforme qu'il voulait faire dans son premier quinquennat, qu'il voudra faire ici. Et par ailleurs, je pense que sur le côté déprime, ça se voit sur certaines choses et sur certaines tendances. Je pense que le mettre simplement sur le dos du président, c'est un peu abusif, dans le sens où je pense que c'est quelque chose qui pourrait caractériser l'état du pays tout entier depuis quelques années, et en particulier en ce moment. Après, la question de la réforme des retraites, moi, je vois plus un côté dépression générale, quand la seule chose sur laquelle il a la main la main libre, c'est-à-dire sur le terrain simplement idéologique, c'est en effet nous sortir la question de l'euthanasie dans un pays où déjà rien ne va, c'est original quoi, comme priorité, on va dire.
Peut-être est-ce là aussi une preuve de ce côté disruptif que vous évoquez, c'est-à-dire que d'un côté on dégaine une réforme politiquement extrêmement clivante et irritante, hein, et puis de l'autre côté les retraites, et de l'autre côté la fin de vie, c'est-à-dire une réforme, alors certes aussi clivante, mais très concernante, puisque évidemment chacun s'intéresse à cette question.
Enfin, le rapport de force entre les pour et les contre, vous avez 9 Français sur 10 qui soutiennent l'idée de la fin de vie, du suicide assisté, qui sont
donc moins clivantes politiquement, même si c'est un sujet extrêmement sensible. Alors vous citiez le nombre de chantiers, c'est vrai qu'il faut le dire, il y a quand même quelques projets de loi qui sont en préparation. La semaine prochaine, on présente le projet de loi de finances, donc le budget, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera sans doute peut-être le cavalier de la réforme des retraites, mais aussi les énergies renouvelables. Et puis parallèlement, Gérald Darmanin travaille sur l'immigration. Donc il y a quand même plusieurs projets de loi qui sont en chantier. Maintenant, c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que le président, lui, a mis la focale sur cette réforme des retraites, dont on ne voit pas, à court terme, quelle forme elle va prendre, quelle méthode. Enfin, pour l'instant, je pense que l'exécutif lui-même est dans le plus grand flou. Il y a plusieurs options et je crois qu'ils sont vraiment dans la panade pour trancher entre ces différentes options. Et une fois que l'option sera tranchée, évidemment, vous avez la situation politique et le terrain d'atterrissage de cette réforme. Et là encore, entre les oppositions à l'Assemblée nationale et les syndicats, on ne voit absolument pas comment ça peut marcher. Mais précisément, je pense que c'est une manière de conjurer le sort. Encore une fois, Macron est obsédé par l'idée de ne pas subir ce deuxième quinquennat.
Il y a un petit côté roulette russe quand même.
Il y a un petit côté roulette russe, vous avez raison. Mais je pense que Macron, plutôt que de subir et d'apparaître comme effectivement un président dépressif, totalement incapable d'agir, coincé.
Les grands dépressifs aussi, des fois, ont des sortes de sursauts comme ça.
Oui, alors ça, c'est plutôt la bipolarité.
Mais... Oh là, on est en train de psychiatriser le président.
Restons sur la politique. Effectivement, je pense que le président, il est obsédé. Vous savez, c'est son ADN de 2017. Oui. C'était la réforme à tout craint, la réforme à la hussarde. Ça lui a d'ailleurs coûté très cher, puisqu'on l'a beaucoup accusé de ne jamais avoir consulté les corps intermédiaires, ce qu'il a payé très cher avec les gilets jaunes, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il est obsédé par cette idée de rester dans l'histoire comme un président incapable et empêché, et donc c'est pour cette raison qu'il prend ses risques. Et vous avez raison, il y a un petit côté roulette russe.
Voilà, et ressurgira peut-être la réflexion sur l'opportunité ou pas d'un mandat unique, puisque le second mandat semble être une sorte de malédiction. Alors il y a aussi, David en a parlé, le projet de loi immigration. Alors c'est très intéressant, parce qu'on voit que sur la question des retraites, on sent quand même une majorité au sein de laquelle ça discute, mais globalement on voit pas tellement ça déborde pas trop. Sur le projet de loi immigration, on sent, parce que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a peut-être une rivalité, voire une hostilité entre Gérald Darmanin qui pousse ce projet, qui aurait aimé que ce débat ait lieu au mois de novembre, et la première ministre Elisabeth Borne qui dit « retardons ça peut-être au printemps ». Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement de ce projet de loi ? Est-ce qu'il y a une volonté gouvernementale de réformer l'immigration et notamment le droit d'asile ?
Il y a clairement aucune volonté. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron en parle beaucoup. À chaque fois qu'il en parle, il adopte un ton un peu martial, genre « j'arriverai là où personne n'arrivera, on fera les expulsions, ça va toujours pas mieux ». Et on a... Le timing est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on a Gérald Darmanin qui, depuis l'été, a dit quand même beaucoup de choses. Souvenez-vous, après le Stade de France, où il fallait pas parler de nationalité, parce que le seul fait d'évoquer des nationalités était déjà trop pour le ministre de l'Intérieur, ce qui était quand même spécial. Et là, dans l'été, il a parlé de la surreprésentation des étrangers dans la délinquance. Il a parlé de procédures à la fois administratives et juridiques complètement incapacitantes dans notre gestion des flux migratoires. Il pose tout ça sur la table en le disant « on va s'en occuper, on va le faire » puisque retrouver la maîtrise de ces flux, c'est pouvoir se pencher précisément sur ceux qui méritent le droit d'asile.
Mais initialement, ça devait être fait au mois de novembre, là. Hein.
Et il déroule tout ça, Gérald Darmanin, seul, on va dire, sur ce terrain-là, comme ministre de l'Intérieur. Et tout à coup, Emmanuel Macron intervient pour dire « on va répartir les étrangers sur le territoire », phrase qui d'abord n'a aucun sens puisqu'on ne sait pas de qui il parle précisément et qui contrevient parfaitement à la priorité établie par Gérald Darmanin lui-même qui nous parlait de procédures simplifiées et de rétablissement de la double peine puisque c'est comme ça qu'il nous présentait les choses. Donc même au-delà d'Elisabeth Borne qui en effet ne voulait pas le débat parce qu'on comprend que c'est pas la même couleur politique, au-delà d'Elisabeth Borne, c'est le président lui-même qui a mis un peu un coup d'arrêt et on pourrait faire la même histoire avec la circulaire d'Éric Dupond-Moretti hier sur sa nouvelle politique pénale ambitieuse, mais empêchée par l'absence de volonté des fameuses constructions de places de prison qui bloquent absolument toute ambition.
Sur la déclaration du président et la volonté de répartir sur le territoire, c'est peut-être une expression maladroite, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il voulait en finir avec la ghettoisation, la concentration de problèmes économiques, sociaux, culturels, etc., sur le même territoire. Après, c'est vrai qu'on en revient à l'essence du macronisme, qui est que dans le même gouvernement, on a effectivement un Pape Ndiaye et de l'autre côté, un Gérald Darmanin qui, lui, a des positions extrêmement ferme et le monde donc c'est encore une fois le problème du pragmatisme entre guillemets macroniste qui est capable un petit peu de tout et son contraire et en même temps comme dirait l'autre d'avoir dans son gouvernement un Pape Ndiaye et un Gérald Darmanin qui tient des propos pour le coup extrêmement fermes sur ce sujet.
Merci David Ravaud-Dallone, merci Charlotte Dornelas,
merci à
tous les deux, bonne journée, on vous retrouve lundi Charlotte et David la semaine prochaine 8h57, bonjour Philippe Vandel,
bonjour Dimitri,
Culture Média sur Europe 1 dans un instant, oh un programme encore.
Je vais rester dans la presse écrite pour commencer, Libération, nos années folles, les grands années Libé avec les titres de une incroyables. Vous vous souvenez de cette une sur le film de Dino Risi, Chronique d'une merde annoncée ?
Ah oui.
Le type qui l'avait signé, ça vous fait rire, c'était Gérard Lefort, c'est lui qui co-signe ce livre avec Marie Coleman. C'est à la fois instructif et hilarant, on se replonge dans l'époque, on apprend des choses et on rit, ils seront nos deux invités, Coleman et Lefort. Au sommaire également, un doc sur Bourvil ce soir, réalisé par Bernard Farou. La voix off, c'est Valérie Le Mercier, vous savez quoi ? Elle nous a fait l'honneur de venir ici. Wow. Farou, Le Mercier, aussi dans l'émission. Et puis Duvauchel pour une série qui est un phénomène. Plus d'1 million de vues en quelques jours sur Arte. Ça s'appelle Les Papillons Noirs. Il joue un écrivain qui fait le ghostwriter, comme on dit maintenant, pour un type qui va bientôt mourir. On découvre que c'est un ancien tueur en série. Lui-même était un écrivain raté. Il en fait un roman. Tout ça est un micmac incroyable. Vous savez quoi ? Le roman va sortir pour de vrai et Nicolas Carreau l'a lu et on sera avec Nicolas Duvauchel.
Ouais, t'as Nicolas Duvauchel, vous savez que dans sa jeunesse, il était chanteur dans un groupe de hardcore.
C'est vrai ?
Ça rigolait pas. Je l'ai vu sur scène à l'époque.
C'est pas
il
vrai.
Il était pas connu.
Hein ?
Moi non plus.
Dimitri, vous aviez des accointances ?
Ouais, exactement.
Il était au bar.
Merci Philippe, bonne émission. Culture Média, ça démarre dans 5 minutes. Quant à nous, Europe Matin, on se retrouve demain matin, 7h. Bonne journée.